Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 3. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter sur Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @prontonmail.com. Je répète notre adresse email. Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @prontonmail.com. Cette adresse vous est, utile si vous souhaitez nous faire parvenir des coupures de presse, une remarque sur l'émission ou bien sur un article, ou nous poser une question et bien évidemment nous faire parvenir des courriers d'auditeurs. C'est vrai que nous recevons beaucoup de courriers, je tiens à remercier tous ceux qui par le passé l'ont fait, contribue grandement à la, à la qualité de l'émission et surtout ça permet de créer un lien, fut-il indirect, entre les auditeurs, notre équipe bien sûr, c'est, je crois, un point fort. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir ce que vous vivez au quotidien, même une anecdote, ça suffit. Malheureusement, on ne peut pas passer tout les témoignages, ceci étant dit, soyez assurés qu'ils sont tous lus. Ils sont tous lus, on ne peut pas tous les passer. Je procède à la présentation de nos membres de l'équipe de cette semaine. Sans transition aucune, je commence par Pierrot. Salut Pierrot, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Salut Gandalf et salut à tout le monde.
Sans transition aucune, j'enchaîne avec MacDav. J'espère que MacDav a la pêche.
La pêche, la banane, comme dirait le nègre des inconnus.
Pascal Legitimus, qui est partiellement d'origine arménienne. Le saviez-vous? Oui.
Je l'ignorais.
Est avec nous aussi cette semaine Fulbert, le plus national-socialiste des Belges, ou le plus belge des nationaux-socialistes. Là, ça reste à déterminer. J'espère que tu vas bien, Fulbert, et je te remercie d'être avec nous cette semaine.
Ah, bonjour Gandalf, bonjour à tous, et oui, tout va très bien, j'aurais tort de me plaindre.
Tout va très bien, c'est très bien. Enfin, on ne présente plus son éminence. L'autorité spirituelle de cette émission, celle qui fait autorité, je crois, bien au-delà même de Démocratie Participative, le cardinal Derrick. Derrick, j'ai cru comprendre que bientôt un film à ta gloire sera réalisé et l'ermite va incarner ton personnage.
C'est ça, tout à fait, monsieur l'ermite.
Séduit par la verve.
Non, pas tellement. Enfin, une adaptation française, c'est pas pareil. Ouais, c'est-à-dire que c'est bon, les acteurs français, c'est le service public, quoi.
C'est ça.
Ils ont leur système de d'intermittents du spectacle qui les fait bouffer grassement par les subsides de l'État. Donc non, tout ce qui est cinéma français, au feu.
Il faut dire que ton interprète de la série allemande, hein, du même nom, hein, oui. Derrick, bien sûr,
Horst Tappert,
était membre de la SS. Et donc c'était...
Oui.
On l'avait appris ça tardivement.
Oui, ben ce n'est pas un hasard hein, si le pseudonyme que,
oui.
Que j'utilise est Derek, bien entendu.
Nos auditeurs ont peut-être appris 5 ans après ton existence pourquoi tu t'appelais Derek, en fait, pas plus tard qu'aujourd'hui.
Oui, bon, peut-être.
Voilà. Alors, messieurs, je vous propose de commencer sans transition. Je mets des sans transition partout, je ne sais pas pourquoi. Mais... Commençons avec notre rubrique courrier des lecteurs. Et c'est une femme qui nous écrit cette semaine. C'est pas commun. Alors, premier courrier. Chers amis, bonjour. Fervente auditrice et lectrice de vos travaux depuis peu, je me permets de vous joindre pour vous donner des nouvelles du front vendéen. J'essaierai dans les jours à venir de vous faire un don de quelques Reichsmark afin de contribuer à l'effort de guerre. Reste pour cela à comprendre le système pour ce faire. Effectivement, bon, j'en ai un peu parlé, effectivement. Maîtriser donc les dons en monero et l'usage des crypto-monnaies que je recommande toujours parce que, même si c'est pas pour notre site, hein, je veux dire, la maîtrise de ce système de financement est importante parce que vous avez remarqué que la censure va grandissante. Et que plus le temps passe, moins les personnes qui pensent mal peuvent utiliser PayPal, etc. Donc oui, c'est même pour vous, c'est bien quand même de maîtriser ces technologies, je vous assure, c'est pas bien sorcier. Alors, je prends alors la plume pour vous révéler la situation actuelle vendéenne, qui n'échappe malheureusement pas au progrès racial, même si l'on reste chanceux par rapport à d'autres endroits. Habitante du Bocage, ayant fui il y a quelques années l'enfer Bobométhèque qu'est Paris, j'ai vu peu à peu la situation vendéenne changer racialement de couleur en 15 ans, alors qu'elle fut pendant un temps un véritable paradis blanc. La Vendée bénéficie encore d'un faible taux de chômage et est une région très développée grâce à Philippe de Villiers. Cependant, comme tout paradis qui se respecte et à l'image de ce que fut la France d'autrefois, elle a attiré peu à peu la merde du tiers-monde. Malheureusement, elle n'est aujourd'hui plus la digne héritière des combattants de 1793. Charette, Lescure et Bonchamp sont bien loin. Notre beau département a souffert d'une dénazification suite à la Révolution. Je vous rassure donc, le jeune Vendéen est aujourd'hui un bon Français, car il est passé par le moule de l'éducation nationale. Le mythe de la Vendée royaliste et catholique est donc tout à fait bidon. Le département vote en grande majorité pour le courant dominant, car nous possédons notre lot de boomers vivant bien loin des tracas de la réelle situation des Français d'aujourd'hui. En effet, tant qu'il y a de l'argent et que les rues sont propres, le Français ne bouge pas. Pourtant, il suffirait pour certains d'aller faire un petit tour dans l'enfer qu'est Nantes, mitoyen de la Vendée, pour s'apercevoir de la réelle situation de notre pauvre France. Nantes est devenue une ville absolument sordide, occupée par les bolcheviks et tout le tiers-monde. Pas une semaine ne s'y passe sans qu'il n'y ait un viol, une fusillade ou des émeutes gauchistes et métèques. Bref, Nantes mériterait un roman entier, mais nous nous égarons. La Vendée possède aujourd'hui son lot de nègres, afghans et autres bougnoules issus en grande partie des migrations que notre vieille Europe subit depuis 2016. Ces espèces s'observent dans les grandes villes essentiellement. Des groupes de migrants arrivent en car de nuit, pour plus de discrétion. Ils sont d'ailleurs accueillis par le maire et toutes sortes de rombières ménopausées à cheveux courts, généralement membres de la paroisse. Tel est le cas de La Roche-sur-Yon. Cette ville fondée par Napoléon possède actuellement une mosquée dominée par son minaret, ses nègres errants et sa mafia tchétchène qui tient le trafic de drogue sur la ville. Ceci sous les yeux bienveillants de la police, comme il se doit. J'ai fait ma scolarité dans un lycée agricole privé vendéen, et notre auditrice insiste sur le mot privé. Ce dernier a accueilli à partir de 2016 une cinquantaine de mineurs isolés ESE, en écriture inclusive s'il vous plaît, pour la plupart musulmans. Ils diffusaient des appels à la prière dans les dortoirs à l'aube, via des haut-parleurs, ce qui réveillait tous les élèves. Au bout d'un mois, la direction leur a demandé de cesser cela et leur a offert une salle spécialement dédiée à l'exercice du culte musulman. Ironie du sort pour un établissement officiellement catholique fondé par des curés il y a 70 ans, au temps où la République se désintéressait des agriculteurs. Cette même année, un dortoir a été mis en quarantaine car une épidémie de gale s'y était répandue. L'année dernière, le self du lycée a été détruit lors d'une émeute commise par des migrants qui estimaient qu'ils n'étaient pas assez bien nourris. Pour finir, pensez aux gosses. Ah oui, mais le progrès français. Pensez aux gosses.
T'as pas vu la vidéo de la boumeuse là qui va filer des raviolis à des nègres à Calais et qui se fait vertement recevoir parce que les raviolis ne sont pas halal.
Ah, je n'ai pas vu ce petit bijou. Non.
C'est un grand moment.
C'est sur
un
YouTube.
Très grand moment.
C'est sur YouTube.
Oh oui, bien sûr.
Hein, bon, Calais ravioli migrant. Essayez peut-être sur YouTube. Je ne l'ai pas vu, mais je.
Mais il y a aussi récemment là. Excusez-moi, j'en profite. Hein,
vas-y. Ouais, ouais.
Il y a un Afghan qui, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il s'est fait choper en garde à vue. Enfin, il s'est fait mettre en garde à vue pour des violences. Et puis en fait après il s'était calmé au poste de commissariat, les flics lui apportent un café et en fait le mec il s'est rebellé, il est devenu fou, il a frappé tous les flics parce qu'en fait c'était un café mais sans le lait, il voulait du lait.
Ah, la police française, salope.
Oui, attendez, le client afghan est exigeant. Vous demandez un café au lait, c'est pas un café noir. Alors qu'est-ce qui branle à la police là, hein? Qu'est-ce qu'ils foutent là, les commissaires divisionnaires? Ils se tournent les pouces ou quoi? La clientèle a des exigences. Il y a vraiment du laisser aller, hein. Vraiment. Hein. Ah là là. Bon, je reprends le courrier. Notre.
Et tu ouais. Savais que les bougnoules faisaient des critiques sur TripAdvisor, commissariat français.
Ah putain, sérieux?
Trop de mécréants.
Ah,
Non, c'est pas une blague.
France, ton projet.
Terre d'asile.
Ton projet m'inspire. Alors, donc l'année dernière, donc ça j'ai parlé du self. Pour finir, pensez aux gosses agriculteurs qui n'ont jamais pu partir en vacances, qui bossent souvent depuis l'âge de 15 ans avec papa, même papa qui se saigne pour payer un lycée privé, même lycée qui accueille gratos des nègres venus de nulle part et qui sont irrespectueux. On appelle ça l'éducation nationale, ouais. Je trouve. Tout est en ordre.
Enfin, le lycée privé catholique.
Oui, sous contrat. Donc bon, ouais.
Enfin, catholique, mais pas que.
Oui.
Le catholicisme, on le sait, est très, très, très lié.
Croyant.
Un bon culte. Bon.
Sous contrat, précisons-le quand même. Hein.
Sous contrat.
Alors, mais le nègre qui arrive, c'est Dieu, quelque part. Hein. Jésus.
Les Sables d'Olonne, ville comme connue pour sa belle plage et son sable blanc, est tenue par une mafia gitane qui pratique le commerce de la drogue, vendue par de braves migrants tout juste arrivés des contrées les plus lointaines. L'été, cette ville se transforme en bordel du 93, des racailles en tout genre claquent leur fric et gagnent durement en vendant leur cam aux bourges venus passer leurs vacances au sable. La nuit, l'insécurité règne. Cette paisible ville côtière se transforme ainsi l'été en zone de non-droit. C'est là que l'on voit les bienfaits du vivre ensemble. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'il y ait quelques règlements de compte par arme à feu, souvent autour des casinos. Également, les Sables ont la chance de posséder sa communauté juive, à qui la paroisse prête des locaux afin qu'ils puissent exercer leur culte.
Ah oh, putain.
Oh, c'est open bar. Je veux dire,
c'est beau.
Non. Mais est-ce que les catholiques ont encore une église au sable de l'Olonne?
Ouais, mais les modernistes ont des églises, mais il n'y a personne dedans.
Ah, effectivement, oui, effectivement.
Enfin, si, ils mettent des juifs maintenant, apparemment.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, disaient locaux.
Oui. Alors, ils les vendent pour faire des salles de sport aussi.
Ah. Pour finir, les vrais patriotes se trouvent dans le monde agricole. Les paysans votent souvent RN, c'est déjà ça. Mais aussi dans des usines composées majoritairement de blancs qui ont grandi dans les cités parisiennes et qui viennent se réfugier en Vendée pour fuir les métèques et la misère. Les usines se colorent parfois de quelques nègres qui viennent en formation, type maintenance, ceci payé par nos impôts. Beaucoup repartent vite car ils sont complètement cons, ils cassent tout, sont paresseux et bons à rien. La droite catholique vendéenne vote Fillon en cachette et aime se répandre dans la plus ignoble des fanges bourgeoises. Ils sont lâches, superficielle et non d'intérêt que pour l'argent. Je vous quitte là. Désolé pour ce message un peu long, j'invite cependant les nationalistes à rejoindre cette belle terre de Vendée, avant que d'autres individus bronzés ne s'en emparent. Gardons espoir, les choses changeront, les traîtres et les lâches paieront. À la race, Sieg Heil, et c'est la manucure de Blondie qui nous écrit. Alors, merci Blondie, enfin la manucure de Blondie, pas Blondie, mais la manucure de Blondie, de nous avoir écrit cet article, empreint de résistance chouane vendéenne et de racisme, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez? Je sens des piques très, très insistantes contre la droite juive, encore appelée la droite catholique, vous le savez, représentée, non mais ne te moque pas, représentée par des gens comme Fillon. Mais puisqu'on parle de Vendée, représenté par...
Il y a Retailleau.
Et Retailleau. Le Retailleau.
Il a découvert la foi en l'écart nègre parce que sa femme, Jésus, tu vois.
Alors lui, déjà, c'est un embusqué du Sénat, celui-là. Il palpe, je ne sais pas. Ouais, et il avait été désigné successeur par Philippe de Villiers. Décidément quelqu'un qui est très très inspiré quand il s'agit de désigner des successeurs. Hein. Arrêtez de parler de Marion Maréchal. Donc, comment dire, le Retailleau, il a les dents qui raillent le parquet. Il a les dents qui raillent le parquet, cet homme. Il a les dents qui raillent. Il pense qu'au pognon. Il pique un peu sur l'islamisme. Vous voyez.
Oui.
Un peu.
Ouais, vite fait. Ouais. Les Arabes, ok, ça serait bien s'ils pouvaient bouffer du Justin Bridoux. Voilà, c'est ce qu'il a dit une fois.
Il parle un peu vite en agitant sa tête de gauche à droite. C'est ce qui signifie qu'il n'est pas, il n'est pas très content. Mais ça s'arrête là.
Oui, c'est ça.
Les valeurs de la République, les nègres, accueillons-les parce que Jésus.
Ah oui, non, mais justement, là, j'ai envie de faire une jonction parce que c'est quand même un mec qui fait chier le Hellfest. Parce qu'il y a marqué Hell dessus, donc ça veut dire enfer en anglais, et quand même, les cathos sont pas contents. Alors, je me prononce pas sur les convictions catholiques des uns et des autres, mais politiquement, ça me paraît totalement idiot. Et évidemment, la gauche n'en a pas perdu une miette, qui s'est empressée de dire à quel point il pensait du bien du Hellfest, qui permettait de... Et évidemment, les locaux. Imaginez, les locaux. Alors là, on n'est pas en Vendée avec le Hellfest, hein, on est en Bretagne, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement qui fait vivre la commune où ça se passe, et de manière à l'année, quoi. Et plutôt que de s'en emparer, ils ont préféré cracher dessus en évoquant Jésus, hein. Deux chevilles en cheville avec les mêmes rombières qui, toujours au nom de Jésus, font venir des nègres la nuit, en bus. Je me permets de le faire observer. Voilà. Oui. C'est... Non, mais bon.
Alors, à l'année, je sais pas, parce que c'est quand même un événement.
Tu te rends pas compte, les commerces.
Non, mais il y a du monde. Hein.
Non, mais ils font les commerces locaux font leurs chiffres de l'année en 3 jours, tu vois.
Oui. Donc c'est un festival, pour ceux qui ne connaissent pas, de métal, hein, qui se déroule à Clisson. Donc c'est en Loire-Atlantique. Hein.
C'est en Loire-Atlantique, mais touche la Vendée.
Et puis les gens, du coup, ils restent pas spécialement pour les 3 jours, ils restent souvent plus longtemps, tant qu'à faire. Donc ça fait vivre du monde, quoi. Et ça ramène vraiment beaucoup, beaucoup de monde, parce qu'à chaque fois, ils arrivent à choper des têtes d'affiche en termes de groupes de musique, de black, metal, trucs comme ça. Enfin, moi, j'y connais rien en metal, mais...
Non, mais disons qu'ils brassent tout l'univers metal, nord-américain, européen, etc. Et qu'ils aient réussi à le faire en Bretagne, donc à Clisson, c'est un exploit. Et ça fait vivre donc la commune, bien sûr, et les communes avoisinantes. Et c'est une véritable manne. Et d'être un responsable politique et d'aller chier dans les bottes des organisateurs de ces commerces locaux, etc., simplement pour dire ah mais quand même Jésus, voilà, alors que, excusez-moi, je veux dire, en termes de d'antichristianisme pathologique et systématique, il y a beaucoup plus de choses à aller chercher à gauche que chez des organisateurs d'un festival de métal qui en plus est une vraie manne pour la population locale. Enfin, je veux dire, c'est tellement stupide. Et Retailleau l'a fait. Retailleau l'a fait.
Oui, et puis, c'est même pas en plus. Enfin, moi, je trouve ça un peu débile dans le sens où faut quand même être un peu tordu dans sa tête pour comprendre quand même. Faut comprendre que les types qui vont à ce genre de festival, c'est pour écouter Motörhead et trucs comme
sûr,
ça. C'est pas pour glorifier Satan. On est d'accord.
Mais non, mais les groupes satanistes, etc. De toute façon, c'est une...
Il y a un folklore culturel autour de, je sais pas, de
c'est
de
gothique,
l'enfer,
c'est vieux comme le monde,
oui,
et tout machin.
Voilà.
Et puis bon, et puis putain, les mecs, ils vont écouter de la musique. Bref. Enfin bon, donc là, toute l'intelligence donc de la droite provinciale des pays de Loire et surtout de Vendée. Mais bon, voilà. Donc Retailleau, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le courrier de notre auditrice?
Ça fait plusieurs fois qu'on a des courriers de Vendéens ou de...
Bah c'est parce que j'ai sollicité...
De Bretons du Sud.
J'ai sollicité nos auditeurs pour qu'ils nous parlent de l'arc atlantique, pour nous dire, voilà, j'ai un autre courrier sur le sujet. Comment dire pour voir si c'est respirable, est-ce que c'est intéressant de s'y installer, etc. Quel est le sentiment de ceux qui y vivent. Et donc on a des retours, et c'est pour ça que ces derniers temps, on en entend parler, quoi. Donc on en a eu d'autres.
Bah, ça m'a l'air quand même particulièrement préservé de,
oui.
De la bougnolerie. Hein.
Oui, oui.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, la Vendée, oui. Mais la pourriture commence à prendre, mais c'est sans commune mesure avec ce qui existe, évidemment, dans les grandes villes, etc. Hein, je veux dire, mais bon, pour un œil exercé, bien sûr, on voit déjà la moisissure. Le passage là dans le lycée agricole, c'est quand même effrayant, quoi. Je veux dire, enfin, c'est là que vous voyez, mais cet état bolchevique. Qui pourrit tout, enfin cette république maçonne qui peut pas s'empêcher quoi de
ah il faut nous foutre du réfugié.
Ah putain, mais ils vont coller des Afghans dans des lycées agricoles vendéens. Je sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va.
Ouais, ouais. Alors j'espère qu'ils leur donnent au moins un café au lait.
Oui. Mais on en parlait une fois à propos du courrier de... Bah, c'est-à-dire il y a un mois, je pense.
Ouais.
À propos du courrier d'un auditeur boulanger, un petit peu plus haut en Bretagne.
Oui, tout à fait.
Et que le type était dans des filières où tu avais des nègres sortis de nulle part qui venaient toucher de la pâte à pain, quoi. Hein,
oui, 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 oui.
Absolument ignoble. Et c'est ça, c'est-à-dire que... Bon, il faut, y a des nègres, ça déborde de partout. Il faut bien les occuper. Effectivement, ces nègres-là, tu vas pas les foutre dans des filières où il faut...
Filières d'excellence.
Oui, filières d'excellence. C'est même pas forcément d'excellence. Mais
je suis ironique, hein. Je suis ironique.
Oui, bon, voilà. Où tu dois faire... disons qu'il faut faire autre chose que strictement des tâches répétitives. Bon, parce que... Alors attention, je ne dis pas que le boulanger ou autre va faire des tâches répétitives, mais le nègre, lui, peut s'en sortir à faire que des tâches répétitives. Il peut rester dans sa routine, à se transformer en une espèce de robot mal foutu, à ne faire que la même chose que pendant 30 ans. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors que, bon, quelqu'un qui va faire boulanger, il va essayer d'innover, créer des nouveaux pains, nouvelles farines, etc. Bon, le nègre, lui, bon, il va rester en bas, quoi. Cela étant, bah, tu te retrouves dans ces filières-là, manuelles, qui sont néanmoins des filières qui ont une certaine...
une noblesse, oui. Oui, oui.
Ouais, une certaine noblesse, tout à fait. Et tu te retrouves particulièrement pollué de nègres là-dedans. C'est absolument terrible. Là, notre utilisateur nous parle de nègres qui utilisaient le haut-parleur pour,
ouais.
pour faire l'appel à la prière.
voilà, la dana, bon. Non, mais...
Bon, ils ont un projet, quoi. Hein.
Mais ils font même de la propagande aussi par rapport à ça. Vous avez remarqué, comme tous les ans, ils essaient de nous montrer le meilleur boulanger de France, le meilleur pâtissier de France, que vous voulez.
Le meilleur bougnoul de France.
Ouais, à chaque fois, ils nous collent un aigre ou un bougnoul, quoi.
Et vous avez vu la pub qui est faite sur le groutier de Notre-Dame? Qui est un bougnoul.
C'est pas vrai, ils ont fait ça.
Alors, est-ce qu'il allume des mégots? Non, c'est pas...
Je sais pas, mais quand j'ai vu ça... Alors, c'est marrant parce que moi, il se trouve que je connais des groutiers et des gens qui bossent dans... Enfin, qui sont conducteurs d'engins. Aucun n'est arabe. Alors, il y a des arabes qui bossent dans le BTP, beaucoup, hein. et même beaucoup qui conduisent des engins. Mais c'est curieux, ça, le premier conducteur, enfin le premier que je vois, quoi, qui est, et ben il a le chantier de la cathédrale, qui est
le
quand
plus
même,
prestigieux.
Le plus prestigieux. Et évidemment, il a fallu faire un beau reportage sur ce,
oh là là là.
Sur ce, non, mais... il veille sur nous.
Non, mais il avait dû s'installer ici pour préparer.
Il veille sur Paris.
Non mais c'est hallucinant. Je veux dire, ouais. Alors, tu sais, ils feront des panneaux explicatifs. Je veux dire, 2040 Paris, des panneaux explicatifs, tu vois, pour expliquer aux petits Français, donc Mohamed Toufik et puis Mamadou, qui a construit Notre-Dame de Paris. Alors ça sera évidemment Abdelkader le grutier, tu vois. Évidemment, bah oui.
Depuis le temps qu'ils nous disent que la France était
érigée par les Bougnoules, elle dit alors qui a construit Notre-Dame, les enfants, hein. Donc là, ça sera Magali, militante antiraciste de vieille date, au bord de la retraite, éducation nationale. Ouais, moi, c'est Abdelkader.
C'est mon cousin.
On a reconstruit la cathédrale. Ouais.
Il vient de ma commune.
Sans nous, voilà, la cathédrale aurait pas été construite.
Ouais, vas-y, toi. Les Français continuent de nous cracher dessus. Ah ouais, non, ça sera... Je ne connaissais pas cette histoire de grutier, mais je suis convaincu que les ouvriers du Moyen-Âge...
étaient des kémites.
Non, mais... C'est un tunnel spatio-temporel, la France. Moi, je résume ça à ça, maintenant. Tu vois, c'est... Oui, tu passes un peu par les pyramides d'Égypte, un peu par la Mecque, je sais pas, tu fais un détour par le Bronx, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et un peu par le Moyen-Âge, donc, catholique, mais il y a très longtemps, hein, revu et corrigé.
Oui.
Donc, sur la Vendée, comment dirais-je, Philippe de Villiers, c'est assez reconnu, hein, a fait un très bon travail sur ce département. Il a, au plan économique, notamment, il a donné une très bonne visibilité à ce département, le Vendée Globe, bien sûr. Le Puy du Fou, bon, ça, c'est aussi une de ses réalisations, très connue, très symbolique, très marquante. Vous voulez rajouter quelque chose sur le courrier de notre auditrice, elle tient à souligner le fait que les paysans restent une force saine, somme toute, dans la population, en tout cas en Vendée. Ce que je crois volontiers, hein, mais comme elle dit, à 15 ans maintenant, ils deviennent dégénérés très vite, puisque bon, avec des tablettes et internet, le boulot est vite fait, et de toute façon, il y a les profs gauchistes pour s'assurer qu'ils soient complètement rétamés psychologiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Je ne connais pas la région, mais j'imagine parfaitement la chose.
C'est ce qu'avait dit un courrier précédent, hein, sur... Vas-y, Derek.
Ils ont été exposés un petit peu moins au poison, mais le poison est là maintenant. C'est-à-dire, comme tu dis, avec l'éducation nationale, les tablettes, les smartphones, les réseaux sociaux...
ouais.
Où tu as des...
Netflix,
des putanais... Oui, Netflix, bon... Netflix ou même les réseaux sociaux.
Non, c'est-à-dire que les putains nègres, ça devient réactionnaire maintenant, parce que si tu veux, ça reste hétérosexuel. On est sur un nouvel horizon avec Netflix. Hein. Maintenant, l'éducation sexuelle, et vous avez des grands panneaux qui sont affichés dans le métro parisien. Maintenant, c'est des mecs blancs sur les panneaux d'affichage, hein, qui, pardonnez-moi l'expression, emballent des nègres. C'est voilà, on est dans on est dans l'homosexualité interraciale maintenant, hein, je veux dire.
Ouais, puis en 4x2 avec le gros plan sur la bouche dégueulasse parasée. Ah, c'est absolument immonde.
Non, mais imagine, t'as des gamins de 3 ans, 4 ans qui passent devant ces saloperies. Bonjour, l'éducation sexuelle en France, Netflix. Enfin, c'est
ah ouais. Bon, en plein métro, et je rappelle quand même que très récemment la mairesse de Paris, donc Anne Hidalgo, était choquée et indignée parce qu'elle avait vu des pubs anti-IVG ou anti-PMA, je ne sais plus, dans à Paris, quoi, dans les transports en commun. Mais par contre, le mec qui se roule des pelles, il n'y a pas de souci.
Non, mais le truc, c'est inverse totalement, c'est marrant. Hidalgo, ah.
Ah oui, effectivement. Alors, c'était quoi la pub Super React? C'était, je crois...
Mais c'était rien, en plus.
La société avancera lorsqu'on respectera la paternité et...
Ouais,
on respectera la maternité, quoi. C'est... C'est l'horreur quasiment le nazisme, comme dirait
Zemmour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, en gros, la pub devait dire « Ah oui, mais quand même, une famille, ça peut aussi être un papa et une maman. » En gros, c'était ça et...
Pardon, s'il vous plaît, prenant
ouais,
des pincettes.
Ouais, c'est ça, ouais, dans communication catholique, hein, très prudente. Et non, Hidalgo avait l'impression d'être aux portes d'Auschwitz.
Les nazis reviennent,
ouais,
quoi,
aux portes d'Auschwitz, ouais,
ils
ouais,
ont non, traversé c'est... les Ardennes.
Attends, oh, j'aimerais tellement. oh là là, bon, ne désespérons pas. Peut-être qu'ils passeront par un autre passage la prochaine fois, je sais pas, par les Pyrénées, j'en sais rien, la Manche, enfin, hein, Pyrénées c'est assez improbable, mais bon, on sait pas, l'histoire n'est pas écrite. Alors mes amis, quelqu'un d'autre sur ce courrier, sur la Vendée républicanisée finalement quand même, hein. la République l'a emportée quand même. Il y a un truc qui me fait chier avec De Villiers, il peut pas s'empêcher de dire du bien de la République.
Et des juifs aussi, hein.
Ah oui, oui, plus des juifs d'ailleurs que de la République, mais...
De la République, c'est vrai ?
Oui, 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 il dit, voilà, même si c'est faux, parce que c'est pas vrai, il le pense pas, mais c'est hypocrite, mais il se sent obligé, médiatiquement, de consentir à l'exercice rhétorique républicain. C'est insupportable.
Mais tu sais qu'il est tenu par les couilles, parce qu'il y a une affaire de mœurs dans sa famille proche. Il y a son fils, il y a, je crois que son aîné qui a sodomisé son caddie, un truc comme ça.
Ouais, je sais pas si c'est vrai, mais je vois pas en quoi ça le tient lui politiquement.
Si, bien sûr que si, à chaque fois il lui
rappelle. Il y a son frère de Villiers, le frère de Villiers qui est
de l'armée. Ah oui, non, Jeanne d'Arc, oui, en mec. Enfin, en mec.
Ouais.
Mon général.
Même au plus du fou, t'avais De Villiers qui avait invité Macron, il était pas obligé.
Mais oui, il a invité, comme il avait invité Sarkozy.
Et pourquoi il m'invite pas ?
Candole de luxe.
Pourquoi il m'invite
mais
pas ?
Mais non, mais voilà, mais pourquoi il t'invite pas, Gandalf ? C'est parce qu'en fait, en dehors de l'histoire d'idéologie politique, ces gens, avant d'être de droite, finalement, ils sont juste bourgeois. C'est que ça rejoint essentiellement le courrier. Droite catholique, et peut-être la droite musulmane, si vous voulez, on peut imaginer ça. Ça ne change rien, c'est des bourgeois. Donc ils votent bourgeois et se comportent comme des bourgeois.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça le truc. C'est pas une découverte, mais bon, c'est un vieux classique, et finalement, c'est d'ailleurs le tour de force réalisé par Macron. Hein. Macron a fédéré la bourgeoisie française, en accélérant la disparition de la vieille gang des normes sociales qui tenaient jusqu'à une date pas si éloignée. Une partie de la bourgeoisie française sur des valeurs traditionnelles dites réactionnaires chrétiennes ou catholiques, notamment sur le mariage, ça. Bon, tout ça, ça a été foutu en l'air, parce que bah, déjà, la bourgeoisie en question ne s'y intéresse pas, elle est beaucoup plus intéressée par son portefeuille. Et effectivement, on a vu De Villiers finalement faire copain avec Macron au Puy du Fou, butiner, enfin, De Villiers butine pour le compte de son du Puy du Fou. Bon. Il butine, il va auprès de Marion Maréchal Le Pen, auprès de Macron, allez savoir qui d'autre. Et voilà, donc bon, c'est... Je nourris pas d'hostilité à l'égard de Philippe d'Olivier excessivement, mais bon, c'est vrai que... Il y a vraiment une constante, par contre, chez lui, c'est son amour du juif. Ça c'est très profond, quoi. On le voit, on le sait. En tout cas, la Vendée mérite très certainement d'être connue, notamment pour ses plages, évidemment pour ses Vendéens aussi. je veux le croire.
Et ses Vendéennes du coup. Hein.
Et ses Vendéennes aussi peut-être. Je crois pas que j'ai connu des Vendéennes par le passé.
Bah
mais...
Non, mais il y a notre auditrice.
Oui, mais c'est une Vendéenne d'adoption.
Oui, c'est ça.
C'est une Vendéenne d'adoption. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus attachée à l'héritage vendéen que peut-être certains Vendéens issus de certaines paroisses qui veulent faire vivre la chouannerie en important des nègres. Donc, elle est très certainement plus chouanne, plus vendéenne que beaucoup de Vendéens.
Bah malheureusement, oui, la boîte de Pandore dans le folklorisme catholique autorisé,
Oui.
a été ouverte avec la Jeanne d'Arc nègre,
Ah,
métisse.
tu
Donc
as bien
effectivement,
raison. Oui, parce que
il y a,
oui,
il y a, il y a tout autour des gens, des
Philippe de Villiers, Philippe de Villiers. Non, mais
qui regardent avec envie ces négresses magiques d'Orléans. Et qui veulent à leur tour,
Tu vois,
eux aussi.
j'étais là, je disais à propos de Devilliers, c'est bizarre, j'ai plus l'impression de dire du bien de Devilliers que de dire du mal de Devilliers, il manque quelque chose. Et ben
Eh
voilà,
oui.
t'as
Eh oui,
apporté la pièce
fait le
manquante
bonnet.
dans le puzzle. Et voilà. Donc effectivement, il
Donc,
avait apporté
il y a
ça.
une
Il avait,
course.
attends, il avait appelé officiellement, donc à la suite de la polémique impliquant cette Jeanne d'Arc mulâtresse,
Oui, il avait invité au du
il avait dit,
fou.
Ouais,
on
quand
avait,
c'est une vidéo.
en réparation. Il avait dit en
Ah, les
réparation
réparations.
des injures qu'elle avait subies, Dixit. Parce que quand, messieurs, quand vous osez croire que Jeanne d'Arc est une femme de Lorraine, de race blanche et de type celto-germanique, vous êtes une ordure. Hein. Non. Jeanne d'Arc, c'est un peu comme la France, c'est une idée. Hein. C'est une idée. Très bien présenté, je crois, par Monsieur Asselineau, et ça se situe globalement entre Tombouctou et Alger. Hein, voilà. Donc, en gros, et si vous toussez un peu, quand même, Jeanne d'Arc, vous êtes une ordure, et bon, vous êtes excommunié, bon, ça va sans dire, parce que ça c'est l'évidence, mais surtout, ça appelle des réparations.
Oui, alors, des
Pénitence.
réparations, le terme est bien choisi, hein, c'est-à-dire que quand des goïms ont la mauvaise idée de dire, ah, tiens, quand même, les nègres, ils commencent à
Ouais,
tousser quand ils voient des nègres, ben, tikoun olam,
Tikkun Olam,
il
voilà,
faut
il faut
réparer le monde,
réparer
les
le monde.
réparations, et bon, ben, notre ami très catholique, je sais pas, peut-être qu'il y a autre chose, ou très conciliaire, bon, pour nos amis tradis mettront, qui prennent pas mal quand on parle de catholique avec un certain humour, mais il y a quand même, bon, voilà, chez Devilliers, une tendance à vouloir réparer le monde comme Jacques Attali veut lui aussi réparer le monde. Hein, bon.
Moi, je suis plus inspiré par une catholicité, vous voyez, qui, alors qu'elle chemine vers Jérusalem, s'arrête à Strasbourg pour discuter avec la population juive locale. Vous voyez, je suis déjà plus dans ce courant-là. Je me reconnais davantage que dans ce espèce de truc un peu bizarre, hein, où on parle effectivement de réparer le monde parce qu'on n'avale pas des Jeanne d'Arc mulâtresses. Tout ça est très étonnant, quand même, je dois dire.
Oui,
Ouais.
c'est très, très.
C'est une Vendée bizarre, hein, par certains aspects.
Oui,
Telle
les
qu'elle
Juifs sont bizarres, il faut le dire. Donc forcément, tu as des similitudes d'un côté, tu les as aussi de l'autre. Ouais.
C'est-à-dire, si on attend un petit peu trop, le cœur chouan risque de troquer la croix pour l'étoile de David. Hein. Il faut quand même faire gaffe, je veux dire. Soyons vigilants.
Magda, bon, je vais pousser un petit peu encore là, le bouchon. Un petit peu plus loin, mais
Le
Magda
panzer.
a parlé quand même de l'inceste chez les enfants de Villiers. Est-ce que ça ne serait pas un cas, disons
Psychanalyse du
que,
judaïsme de Herberis.
est-ce que ça ne serait pas un élément déclencheur chez Philippe de Villiers d'une envie de se rapprocher
De Jéhovah.
du miracle de l'humanité qu'est le judaïsme? C'est
Ouais,
bizarre, hein.
j'en sais rien, mais bon. Tu vois, c'est quand même, c'est un truc, c'est gros quand même, tu vois,
Ah
c'est un truc
oui, c'est
lourd.
glauque. Ouais.
Je pense que ça existe quand même, enfin, en partie dans la bourgeoisie catholique, mais je pense que on doit lui, comment dire?
Il y a du bon et du mauvais, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, non, mais je pense que on doit, bon, c'est pas qu'on lui rappelle, mais on n'oublie pas de lui rappeler qu'on
Oui,
pourrait
oui.
lui rappeler cette histoire aux Français. Je
Mais en
pense que
fait,
c'est ça.
il y a un truc sur De Villiers, donc qui est quand même un peu le visage de la Vendée, c'est il le dit lui-même, il dit Yvan Levaille m'avait assassiné médiatiquement quand je m'étais lancé au tout début, hein, de sa carrière politique, quand il a fait une apparition médiatique, en disant en faisant une référence, je sais plus laquelle, Vichy, je crois. Parce qu'il disait,
Alors,
ouais,
oui,
je crois qu'il avait une bague,
excuse-moi.
il avait une bague, c'était la bague de son père, je crois, qui était d'ailleurs un gaulliste, d'ailleurs, enfin, c'était pas du tout
Pour pour nos auditeurs les plus jeunes, Yvan Levaille, ce n'est pas le vaillant, hein, c'est l'élite. Non, mais bon, oui. Yvan Levaille, c'est un Auvergnat, hein, encore un.
Oui.
Non, Levaille, c'est Lévy, oui. Alors, non, parce que, donc, pour les plus jeunes...
Ex-mari d'Anne Sinclair. Hein,
voilà. Oui, c'est le mari d'Anne Sinclair. Schwartz.
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 Schwartz. Schwartz. Schwartz. Oui. Ah, mais on s'entend plus, oui. Sinon, le Sinclair, Sinclair. Encore une chose, quoi. Sinclair, quoi. C'est-à-dire, c'est un saint qui serait clair. Non.
Oui, Schwartz. Comme
Schwartz. Et Schwartz, en yiddish, je peux dire noir, foncé.
Ouais, enfin, en allemand aussi.
Oui, mais en yiddish.
Oui, oui, oui.
Oui, foncé, foncé. Bruno de Palestine. C'est foncé, hein, Bruno de Palestine. Hein. Alors,
ouais, ouais,
alors, donc Yvan Levaille. Non, mais c'est vrai que là, on arrive dans les années 80. Mais si nos auditeurs sont un peu curieux, simplement, ils peuvent aller sur YouTube, Yvan Levaille, ils vont voir des exercices extraordinaires de chantage. On le voit avec des enfants.
Juive.
Ah ouais, on voit le juif, hein, cette vieille araignée.
Il sabote des gamins.
Voilà.
Saboté,
il met en présence une gamine blanche, mais c'est ignoble, quoi. Une gamine blanche qui a 6 ans, et le met face à un négrillon. Et alors, tu pourrais épouser plus tard, Mamadou
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes ici avec des enfants. C'est tout simple, le racisme n'existe pas à l'école maternelle. En revanche, on le redécouvre après, quelquefois dès l'école communale, et souvent au lycée, et dans la vie bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait que des petits noirs et des petites blanches peuvent cohabiter? Je ne le demanderai pas à Magis. Tu parles, Magis? Pas trop. Et tu veux t'en aller. En revanche... Émilie, voilà, si tu veux venir. Il y a des petites filles d'une autre couleur que la tienne dans ta classe?
Non.
Ah bon, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de jaune, pas de noir, pas de rouge?
Non.
Mais s'il y avait?
Bah, peut-être ça serait mes copines, si ça serait des filles.
Si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible?
Tu vois, le juif manipulateur qui veut saloper la race blanche, quoi, tu vois. Et tout ça mis en scène, hein, sur le service public, ça a 40 ans, ces histoires.
Ouais, c'était... déjà, les juifs voulaient faire du porno interracial, déjà à l'époque.
Bah non, mais avec des enfants, c'est carrément pédophile, quoi. Je veux dire, tu demandes à une gamine de 6 ans, une petite gamine blanche de 6 ans, si elle veut avoir, en gros, hein, des relations sexuelles avec un nègre.
Ouais, est-ce que les rabbins interdisent ce genre de...
Non, mais je veux dire, voilà, c'est Yvan Levaille qui a été très longtemps sur les médias d'État français. Et c'est lui qui avait d'ailleurs interrogé Robert Forisson, la seule interview qu'on lui accordait à la radio publique française. C'est lui qui l'avait interrogé, et c'est là où Robert Forisson a cité sa fameuse phrase très connue, où il résume toute sa thèse, comme quoi les chambres à gaz, c'est du bidon. Il avait bien raison, d'ailleurs. Mais, les 60 mots. Donc tout ça pour dire... que ce vieux croque-mort juif est occupé depuis très longtemps à tout saloper. Et c'est lui qui était tombé sur le râble de Philippe de Villiers au tout début de sa carrière, en lui disant « Mais vous avez une bague de marquis avec une fleur de lys ou je sais pas quoi, vous êtes un Vichy. » Et de Villiers, ça lui restait en travers de la gorge, parce qu'avant même qu'il comprenne quoi que ce soit, en plus, l'histoire de sa bague, il le raconte assez bien. Il dit « En fait, sa bague, en fait, c'est simplement... une bague qui est transmise dans la famille, et que son père lui avait donné, son père qui, par ailleurs, était un gaulliste antifasciste, qui sortait de la noblesse dégénérée si bien connue. Donc en fait, le type n'avait même pas d'antisémitisme à se reprocher. Au départ, c'est Levaille qui lui a fait un procès d'intention raciale. En fait, simplement, ouais, t'es un sale goy, issu de l'aristocratie, catholique, si t'es pas coupable, c'est pas grave, t'es les ancêtres sont pour toi. Hein. Donc CF, je reviens à mon truc, CF, le départ à la croisade vers Jérusalem qui passe par Strasbourg. Référez-vous à ça, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc sur le judéo-christianisme, n'est-ce pas? Bon, et donc il a estimé que c'était disqualifiant et que c'était fait pour le casser, ce qui est vrai. Mais pourquoi je fais mention de ça, c'est comment se fait-il qu'un mec comme De Villiers, qui ne peut pas ne pas avoir compris la motivation raciale du juif Levaille, Comment il n'en a pas tiré de leçon et comment il a passé sa vie à essayer de ramper devant cette race de démons, cette race de salopeurs, cette race d'importateurs, de métèques de toutes les couleurs, à commencer par les métèques musulmans. Enfin, comment n'a-t-il pas compris? Je pense qu'il a parfaitement compris, mais je pense qu'il a péché par lâcheté. Je pense qu'il a péché par lâcheté et qu'il a continué à essayer de courtiser, c'est-à-dire l'incourtisable. Franchement, hein, y a plus de noblesse à aller courtiser Satan que de courtiser un juif. Hein.
C'est la même chose.
C'est pas la même chose.
Alors, c'est non, vrai. Non, c'est la même, c'est la même chose, mais je dis il y a plus de noblesse à aller voir le patron. Je trouve ça plus noble, si vous voulez, d'aller voir Belzébuth que... comment dirais-je, qui vend le vaille, tu vois. Anne Sinclair. Anne Sinclair, une louve juive déchaînée, plus elle vieillit, plus elle devient mauvaise. Incroyable. Elle crache son venin, mais à litre entier, contre les Blancs. C'est incroyable. Cette femme est véritablement un... C'est l'instrument des desseins du démon.
Mais elle s'y connaît en dégueulasse, puisque, bon, elle a eu, comme vous l'avez expliqué, comme Marie Van Leveille.
Oui.
Elle a quitté pour passer à un autre dégueulasse, Dominique Strauss-Kahn. Donc.
Et d'ailleurs, Yvan Levaille, je crois qu'il a toujours défendu Strauss-Kahn. Il a toujours dit que c'était pas un viol, cette histoire. Comme quoi. Après, les Juifs ont une notion du viol un peu particulière.
Oui, c'est particulier.
Il s'agit des non-juifs.
Après Strauss-Kahn, elle s'est mise avec Pierre Nora.
Ah bah.
Non, hey, non, hey.
Alors Nora, non, mais...
De quel, c'est de quel,
de fou,
attendez, de quel,
il faut le lire à l'envers, Nora.
De quelle endogamie incestueuse parlez-vous? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non mais les mecs se refilent carrément. Non mais ils se refilent leur sœur. Ils se refilent leur sœur, les mecs, quoi.
Bah comme leurs amis Bougnoul, quoi.
Non mais oui.
Entre cousins.
Et tu sais, les types te font des procès en endogamie après. Elle est. Non mais. Ah ouais, vous avez peur de mélanger votre sang. Pardon Bref, comment... Derek, tu voulais dire il fallait lire à l'envers Pierre Nora, dis-nous en plus.
Oui, c'est Aaron, c'est une petite subtilité, subtilité de nos amis juifs. C'est, ils aiment bien changer leur nom, tu sais, pour se cacher. Bon, c'est ça.
Mais quand on se cache, c'est quand on a la conscience tranquille.
Non, oui, oui, tout à fait.
Oh là là. Alors, merci pour ce premier courrier.
Sinclair, Nora, etc. Hein, Levaille, le Vaillant. Michel Vaillant, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouf. Oh là là. Alors, messieurs, je vous propose de passer au second courrier, si vous le voulez bien. Courrier numéro 2, chers amis. C'est la suite, vous savez, du courrier d'un auditeur qui... Vous avez parlé de son expérience avec BlaBlaCar, qu'il avait surnommé BlaBlaCar. Alors je vous livre ce courrier. Bonjour Gandalf, pour en revenir au sujet sur BlaBlaCar, dont vous avez parlé dans l'émission numéro 1 de la saison numéro 5, j'ai eu une mauvaise surprise cette année, en fin d'année 2019. En effet, je suis quelquefois utilisateur de cette plateforme quand je rentre voir mes proches pour célébrer Noël en famille. J'ai donc effectué un trajet entre mon lieu de résidence en région toulousaine et ma région natale à environ 200 km. Faisant le trajet seul, je propose de temps en temps un siège, cela me permettant de rentabiliser un petit peu le coût de ce trajet. Ayant une petite voiture sportive, je tiens à valider les demandes, ne voulant pas tomber sur un punk à chien ou un nègre pour me salir les sièges. Pour ce trajet, je vois que Magali, 41 ans, souhaite réserver ma place. Après avoir regardé les évaluations que les autres passagers lui ont laissées, je décide d'accepter sa demande. Le lendemain, soit 2-3 heures avant le départ, je reçois un message de la fille de cette femme me disant que je dois en fait transporter un jeune homme de 18 ans. Surpris, et ceci étant contraire à ma volonté de savoir qui je transporte, je lui réponds par un « ok » par SMS. Bien mal m'en a pris.
Quasiment... Brave goy. Brave couffard, brave blanc.
Quasiment arrivé au point de rendez-vous, je reçois un appel d'un homme avec un accent étranger très prononcé, me disant qu'il est arrivé au point de rendez-vous et qu'il m'attend. Je suis alors dans les bouchons et je lui réponds que je serai là d'ici 5-10 minutes. Arrivé sur place, je me gare et j'attends ce jeune homme. Soudain, je vois un nègre d'Afrique profonde aux gros traits, avec un sac à dos, passer derrière la voiture. Nous nous regardons et il me demande si je suis bien celui qui fait le trajet. Hésitant, je réponds quand même « Oui, c'est bien moi ». Putain, je regrettais déjà mon trajet à venir. Je charge son sac dans le coffre, bien que j'aurais préféré y mettre son propriétaire à la place. Et nous partons. Il m'explique alors qu'il vit à Toulouse et que sa petite amie de 18 ans, avec un nom bien français, habite dans la ville de destination. Et que c'est sa mère, à elle, qui a réservé et payé le trajet pour lui, afin de passer les fêtes de fin d'année chez eux. Il s'agissait donc de faire de la livraison de nègres à domicile. Durant le trajet, la conversation tournait autour de sa vie en France. Il disait que tout était cher et que son salaire était très bas. J'avais tellement envie de lui demander « Mais alors pourquoi tu n'es pas rentré au Bougnoulistan au lieu de venir en France et de voler, violer nos blanches ?» Et là, je réalise que malheureusement, la réponse était dans la question. Lors du trajet, avec un temps froid et pluvieux, je n'ai pas pu ouvrir la fenêtre. Le trajet a donc été très long. Arrivé à destination et ne trouvant pas de place pour me garer, je m'arrête 30 secondes à la suite de quelques voitures, empiétant légèrement sur un passage piéton. Pendant que je sors de la voiture pour aller chercher le sac du nègre, je tombe sur un couple de boomers se préparant à traverser la route, et dont l'homme marmonne quelque chose du genre « Bon, apparemment, ce jeune homme nous interdit de traverser ici. » Alors qu'il y avait largement la place de traverser sur le passage piéton. Évidemment, je leur ai répondu en leur demandant d'arrêter de se plaindre. L'homme ne m'a même pas regardé dans les yeux. Déjà, j'avais supporté le nègre pendant 2 heures dans ma voiture. Il pouvait comprendre que j'avais envie de m'en débarrasser au plus vite. En 2 heures, j'avais fait malgré moi le combo nègre plus boomer donneur de leçons. Un sourire forcé plus tard, je dis au revoir au nègre et je file en vitesse. La pluie ayant cessé, je roule vitre ouverte pendant 20 minutes jusque chez mes parents pour enlever l'odeur. Aujourd'hui, je suis dorénavant très hésitant à proposer à nouveau des trajets. Il faudrait vraiment qu'on ait un service dédié aux blancs du style blancblancar.com. Bien fâcheusement à toute l'équipe, le blanc masqué.
Ouais, mais ça, alors ça, ce n'est pas possible, cher auditeur, on l'a déjà parlé la dernière fois, mais c'est...
Oui, là, c'est...
Les musulmans
GIGN,
peuvent faire du...
parquet antiterroriste, enfin, tout arrive, hein. Enfin, tu fais un site comme ça,
Les musulmans peuvent faire du covoiturage selon les valeurs islamiques, hein, ça va.
Contre, je crois que ça n'existe pas déjà, ce truc-là.
Si,
ça existe.
On en avait parlé à l'époque du courrier mentionné auquel répond notre auditeur. Effectivement, ça existe.
Voilà. Ça existe. Mais par contre, si un blanc ne souhaite prendre que des blancs dans sa voiture pour du covoiturage, eh bien là, c'est la République qui va te tomber dessus, cher ami.
Mais quoi qu'il en soit, il faut le faire quand même. Hein. Parce qu'on peut quand même sélectionner les personnes. Il y a des photos. S'il n'y a pas de photos...
Ah, si tu... Pas... Non, moi, j'ai l'air miracle, hein. Si tu veux faire la discrimination de masse, tu recrutes sur la base de la fiche de paix.
Enfin, c'est quand même Blablacar, quoi. Donc, quand t'es conducteur et que tu sélectionnes, il vaut mieux sélectionner un étudiant que le nègre là qui prétend travailler. Enfin,
bon. Ah, mais non, mais lui il a pas eu de bol parce que c'est une blanche qu'il a mis dedans.
Il faut refuser quand c'est comme ça. C'est quand même complètement fou,
encore
quoi.
Encore une fois, c'est comme notre auditeur précédent qui avait accepté le chien Peter.
Ah oui, ah oui. Non, en fait, non, mais les blancs sont gentils.
Les blancs sont trop gentils.
Les blancs sont domestiqués, j'ai envie de dire. C'est dommage. Hein. Il faudrait que ça cesse. D'ailleurs, hein,
C'est ça. C'est-à-dire que toi, les blancs prennent sur eux parce qu'ils maîtrisent leur nerf, etc. Vous faites l'inverse à un bougnoul, vous allez attendre l'année prochaine avant qu'il y ait une nouvelle bagnole qui arrive. Il faut les envoyer chier, ces mecs, ok?
C'est-à-dire que quand il y a une qui est prévue,
une
Sophie, une Stéphanie qui doit arriver, qui a 40 ans, etc. Et ben, si c'est pas ça qui arrive, tu vas te faire enculer, tu vois, tu dégages. Il faut pas dire oui, C'est bon, non.
Oui, vous n'êtes pas. Enlevez-vous ça.
Pas le
Vous n'êtes
droit.
pas, vous n'êtes pas forcé. Bien sûr, mais en fait, ça c'est normal. C'est parce que les Blancs sont civilisés. Donc, entre nous, je veux dire, entre nous.
Moi, je suis pas civilisé.
Non, non, mais ce que je veux dire. Non, mais entre nous, le contrat est respecté. Quand on te met un nègre sous le nez pour le foutre dans ta bagnole en contrebande, une pétasse se fout de ta gueule. D'ailleurs, je tiens quand même à souligner que c'est encore le facteur féminin qui joue dans l'équation ici. Vous l'avez remarqué, hein. Donc, c'est une.
Rendez-vous compte, le facteur féminin, en l'occurrence, ben, c'est assez terrible. C'est-à-dire que c'est une mère de famille.
C'est la mère d'une putain de nègre.
Qui donne sa fille à un nègre.
Voilà.
Et qui procède à cette manipulation terroriste de refourguer son nègre en contrebande.
Ouais, pour passer les
pour
fêtes.
Il vient baiser sa fille, quoi.
Voilà,
c'est,
voilà.
C'est extraordinaire.
Pour venir baiser sa fille pendant les fêtes de Noël, alors que Boubacar est probablement musulman. Enfin, je veux dire, c'est.
Oui, mais bon, enfin,
il y a. Noir, il y a il... Non, non, mais je veux dire, symboliquement, c'est quand même. Bon. Il y a un problème, si vous voulez. Et quand, si vous vous trouvez dans une situation comme ça, si vous voulez, ne rentrez pas là-dedans. Et moi, je vous dis un truc. Hein, là, c'est très sérieux. C'est pas pour forcer le trait. Si vous avez des histoires comme ça, vous avez un nègre qui débarque. Est-ce que vous savez si ce nègre, arrivé au bout de 100 km, va pas vous foutre un cran d'arrêt dans le foie? Vous en savez rien. Vous
Parce
en
vous
savez rien.
Si il ne transporte pas de la cam dans son corps.
Voilà, vous savez pas. Vous savez pas. Bon,
tu ne forces pas le trait du tout. Hein. C'est...
Ben oui, non, mais
c'est fort probable. Il faut surtout pas laisser monter un nègre dans ta bagnole. Surtout un nègre inconnu, migrant.
Ouais, non.
Tu commences à voir un truc comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu commences à voir une nana qui commande d'un certain âge, qui commande quelque chose, et que tu arrives avec un nègre qui a 20 ans de moins. Bon, c'est louche. Donc, c'est louche, tu dégages.
Bien sûr.
C'est pas pour 20 balles. C'est pas 20 balles que tu risques. C'est un petit peu plus.
Les Français n'ont plus d'instinct de survie. Enfin, les Blancs.
Ouais, ils sont domestiqués, on en parlait bien.
Et même nos auditeurs, c'est ça qui me chagrine un petit peu, moi. Hein, c'est...
Oui,
mais au moins, il a réalisé. Enfin, peut-être qu'il est jeune.
Bah ouais, mais bon.
Mais il y a aussi.
Le chien du nègre qui lui pète dessus, là. Le nègre surprise qui arrive. Bah bon, je
non, mais
sais
dites
pas,
non. Mais là, oui. Dites
oui,
non.
C'est simple,
dites non.
C'est simple. Simple.
Dites non. Que... non.
Sauf si tu passes une thèse pour remplacer Maître Derrick, y a pas intérêt à faire ça, quoi. Enfin...
Non, mais en fait, c'est ça. En fait, les Blancs disent trop souvent oui.
Les Blancs s'excusent de choses dont ils ne sont pas responsables.
Non, mais c'est on est
c'est
constructif.
C'est le fait de vivre dans la société de confiance, tu vois.
C'est
on
ça.
On vit dans une société civilisée. On a confiance à l'individu, à l'autre, quoi, en gros, pour, ben là, il te dit, bon, est-ce qu'il te modifie avant le terme, le contrat, il te demande si tu peux, etc. Bon, tu es arrangeant, tu dis oui. Oui, non, sauf que tu as affaire à un nègre qui peut venir transporter de la cam, qui peut venir te planter, qui peut venir te piquer, enfin, bon, peu importe. Tu n'as pas affaire à un individu civilisé en face de toi, tu as affaire à un sauvage. Donc le sauvage, tu es dans l'incertitude la plus totale face à ça. Il ne faut... Enfin, voilà, donc, dès que vous voyez ce type d'entourloupe, enfin, bon, pour ceux qui pratiquent encore le covoiturage, fuyez dès que... Enfin, n'acceptez aucune modification, aucune espèce d'arrangement surprise pour de ce genre. Enfin,
voilà. Et puis, il faut pas avoir
peur. Vous
n'avez
pas affaire à des individus sains. Un nègre, c'est un psychopathe en puissance.
Faut surtout pas avoir peur de se prendre. Enfin, si tu avais peur de ne pas respecter les règles du contrat, alors que c'est quand même la personne qui les a pas respectées, et que tu as peur de te mettre, d'avoir une mauvaise note sur Blablacar, mais tu t'en fous. C'est la personne d'à côté qui a pas respecté le contrat. Mais ça, c'est quand même complètement fou. Quand les Blancs sont bousculés, ils s'excusent. C'est pas à eux de s'excuser, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bah c'est parce que tu vois, t'essayes d'être arrangeant, mais c'est une équation perdante, ça.
Non, non, mais attends...
Ou alors le type a découvert
le
poteau rose...
Il est pas respecté, basta.
Ou alors le type a découvert le poteau rose au dernier moment, et puis du coup, il se dit, bon, si jamais je lui refuse son trajet, l'autre, il va s'énerver, et il va utiliser la violence à coup sûr, pour le coup.
Bah tu le... Tu ne laisses pas rentrer un truc comme ça dans ta bagnole, c'est tout.
Non, mais par défaut, déjà, même quand tu es une nana qui réserve et que tu à la dernière minute, on te dit que c'est un homme qui va arriver, basta.
Embrouille.
C'est fini. Bah oui, voilà.
Ah, c'est le coup de l'autostop, quoi, tu vois. Dans, quand le, enfin,
Oui, t'as
pour
une
ceux
jolie
qui ont
fille
fait
qui
de
arrive et puis
l'autostop, on
t'as des
voilà,
types qui
quoi.
arrivent qui sont cachés derrière.
Exactement. Donc, en
Bah
fait, je
ouais.
pense que les nanas, c'est un peu la même chose sur Blablacar. J'imagine que les jolies filles doivent être prises plus facilement que les mecs. Mais bon, si il n'y a pas de photo, déjà pour moi, tu prends pas. Et puis voilà, si c'est pas européen, bah, tu prends pas non plus, c'est tout. T'as pas à te justifier.
Tout à fait. Messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante, rubrique numéro 2. Autisme radical. Oh, quelle belle rubrique cette semaine. Quelle belle rubrique. Et là, je crois que...
Bah, une rubrique
Oui.
qui appelle au recueillement.
Au recueillement, hein, voilà, c'est la transcendance est au rendez-vous. Messieurs, autisme radical, et cette semaine, c'est un homme... Enfin...
Oula.
Tu parles de Jésus.
Le Machia est là. Je parle du sauveur, avec certaines émotions, qui est Adama Cissé. Adama Cissé, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, probablement jusqu'à il y a quelques jours. Et maintenant, vous le connaissez, vous ne pouvez ne pas le connaître. Et il a bouleversé vos vies. Je vais citer donc cet article du Parisien qui a finalement, qui résume en fait hein, le drame et qui est un peu le point de départ de l'aventure de cet homme qui, je le dis, hein, Machia, qui aujourd'hui fédère les Français. Je lis l'article du Parisien. On a bien cherché à joindre l'auteur de la photo, donc la photo d'Adama Cissé, prise le 12 septembre 2018 dans une rue du cœur de Paris. En vain pour le moment. Sur le cliché pris par un riverain et posté ensuite sur le réseau social Twitter, on distingue un employé de propreté, identifiable à sa tenue verte et à sa au sajub, chasuble, pardonnez-moi, jaune. Allongé sur le rebord d'une vitrine, visiblement assoupi, les pieds nus, ses chaussures de travail posées à côté de lui. L'auteur de cette photo l'ignore sans doute, mais l'homme qui l'a ainsi immortalisé a perdu son emploi quelques semaines plus tard. Adama Cissé, 37 ans, était salarié en CDI depuis 2011 dans le secteur de la propreté à Paris. Depuis 2015, il travaillait dans la société Polyzotis, filiale du groupe d'Érichebourg, dont le siège est à Charenton-le-Pont. Licencié pour faute grave, désormais en situation de précarité, cet habitant de Gagny a saisi les prud'hommes. L'audience se tiendra ce mardi à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'était la pause, explique Adama Cissé. Je faisais la collecte des corbeilles, les poubelles de rue. Avec un chauffeur. Je me suis juste allongé pour me reposer. Le travail est difficile. On descend, on remonte dans le camion sans arrêt. Mais l'image déplaît. La photo circule sur Twitter, accompagnée d'une légende acide. Ce soir, à 17h40, rue Jean Lantier, 75 001 Paris, voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté, à roupiller. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse. C'est alors que débute, selon Joachim Scavello, l'avocat d'Adama Cissé, l'effet domino, porté par l'écho-amplificateur des réseaux sociaux. Sur Twitter, quelques internautes relaient le tweet, interpellent des élus. Ce n'est pas une déferlante, mais les services de la ville de Paris, alertée, se tourne vers leurs prestataires privés. La collectivité n'a pas demandé de sanctions, assure une porte-parole. Selon nos informations, elle signale la photo, souligne les réactions négatives qu'elle suscite et s'enquiert auprès de Derichebourg Polyzotis des suites qui seront données à cette affaire. La société réagit sans délai, Adama Cissé est convoqué le 14 septembre à un entretien préalable. Quelques jours plus tard, le 26 septembre, l'entreprise d'Erichbourg Environnement communique à son tour sur Twitter pour annoncer que la personne qui apparaît sur la photo fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le 11 octobre, l'employé se voit notifier son licenciement pour faute grave. Je cite... En effet, précise sa lettre de renvoi, durant votre vacation, vous avez été vu allongé sur le rebord d'une vitrine d'un commerce et vous aviez quitté vos chaussures de sécurité. Cette attitude révélant votre volonté de vous assoupir durant votre service a fait l'objet d'une sévère réclamation de notre client. L'employé est aussi accusé d'avoir dépassé son temps de pause, environ 50 minutes au lieu des 20 minutes de pause autorisées.
Oh, et le de... nègre, sale nègre.
Et de n'avoir pas... Silence. Et de n'avoir pas voir... Silence. Le machiar.
Non, mais non, c'est trop... non, mais là, c'est trop, si tu veux. Je... Bon, je...
Jérusalem.
Alors, si vous, j'avais pas suivi, je me suis dit, bon, le nègre, quand même, ils l'ont fait marcher, tu sais, pour ramasser les poubelles.
Genre, ouais,
ils
l'ont ramassé les poubelles par rue.
Il remonte la rue. Non, pense-tu, c'est-à-dire que c'est un nègre. Putain, non, mais rendez-vous compte du pognon qui est dépensé dans les impôts locaux, les impôts, ouais, c'est des impôts locaux, hein, ça, hein, pour les poubelles. Donc, tu as un type dans son petit truc qui conduit, et tu as une espèce de nègre feignant comme pas deux, le fait de descendre du petit camion,
ça le tue,
d'aller ramasser la poubelle, remettre un sac et de revenir,
ah, il est mort.
Le type, il doit se taper une pause de 50 minutes allongé, les pieds à l'air. Oh, mon dieu,
moi
qui vais cavaler dans la montagne, à faire des 30 bornes, et puis bon, je suis encore bien comme il faut quand je reviens, le nègre descend du camion et remonte, ça le brûle, tu vois, un nègre en crémation, non, ben, quelle race de boue, Il n'y a rien à tirer.
Bah, 20 minutes de pause arrondi à 50, où est le problème?
Ah non, mais avec les pieds, non, mais sur la voie publique, c'est l'odeur, les passants ont dû être... Bon, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui ont dû passer à côté des pieds de Jésus et qui ont été littéralement à traverser par ce traumatisme.
C'est Paris, hein. Entre les nègres et l'odeur, ils ont l'habitude, les Parisiens.
Ouais, je sais pas. Là, quand même. Allez, c'est.
Et alors, par contre.
Enfin, Paris, c'est quand même une ville, si tu veux, où les SDF sont plus blancs que la population.
Jésus a ressuscité.
Ah bah là, il marche sur l'eau, il dort sur le pavé, enfin, il est en lévitation, dans lévitation, hein,
Oui, alors ça tombe bien que tu parles de Lévi, puisqu'il est passé chez Hanouna vendredi. Mais,
attends, j'y viens.
Et Nabil Larbi. Nabil Larbi.
Mais c'est quoi ces noms? Mais c'est le nom de lézard.
Alors,
ce sont des Français.
C'est un Français. C'est un Français.
Ce sont les reptiliens, cher Gandalf.
C'est un Français. C'est même un élu du Parti Socialiste qui s'occupe de la gestion urbaine à Bondy. A trouvé un poste à Adama. Adama, Jésus, Cissé est sauvé.
Alors donc, oui, bon, alléluia. Non, juste avant de poursuivre, non, ça ne va pas. Si vous croyez que vous allez me recoller. Le Messie sur la voirie, vous foutez de ma gueule, c'est voir petit. Moi, cet homme-là, je le veux PDG quelque part. Vous allez me le caler dans une.
Ah non, mais oui.
Alors,
non, pas PDG, DRH, c'est déjà le privé. C'est déjà le fascisme.
Bon, c'est pas faux.
L'administration,
je sais pas, ressources humaines.
Je le veux préfet de Saint-Denis.
Oui.
Il montre l'exemple.
Préfet des Gaules.
Ah oui. Oui.
Intendant de la basilique de Saint-Denis.
Émérite. mais plus sûrement... Ah oh, non, préférable. Préposé aux armes nucléaires, un truc comme ça, prestigieux. Oh, oui, oui, oui. Un truc prestigieux, tu vois. Genre... bon, écoutez, là, je vais me mettre en relation immédiatement avec le ministère de l'Intérieur. C'est vrai que, habituellement, je ne suis pas dans leur petit papier, mais, avec un nègre miraculeux comme ça, ils feront une exception. J'ai une question.
Oui.
A-t-on mis ses chaussures sous verre?
Moi, je les ai mis sous cloche. Hein.
Non, mais... Religieusement déposé.
L'entreprise...
Dans un écrin gothique, vous voyez
Non, mais Notre-Dame de Paris a été brûlée.
Avec Toufi,
la scène couronne a disparu. Les scènes chaussures pourraient remplacer cette relique un petit peu vieillotte. Qui nous a quittés.
Une relique à Saint-Denis.
Les chaussures du sauveur.
Bah, moi, je trouve que c'est quand même le symbole de Paris, quoi. Enfin, c'est pas Gavroche ou...
Ce sont des chaussures qui ont blessé Jésus, quand même. Comme la couronne a blessé Jésus. Je ne saisis pas ton sarcasme, madame. Ce n'est pas audible.
Alors, des Richebourg, là, enfin, la boîte qu'il employait, ils ont une réaction qui est très corporate en fait. Et ils sont pas couchés, c'est quand même assez rare. Mais alors, putain, toute la gauche, mais s'est mobilisée pour ce type, mais c'est quand même complètement fou quoi. Je veux dire, le type fait une faute professionnelle.
Quand tu parles du nègre, c'est ça.
Oui,
je n'ai pas compris, excusez-moi.
Oui.
Non, on parle du Messie, là.
Oui, le Messie, oui. Le Messie. Jésus.
Non, ma chère, c'est mieux.
Adam.
Aussi.
Ils sont tous mobilisés. Oh là là.
Oui, alors, donc, oui, par contre, ça. Pays. Comment dirais-je Je poursuis simplement l'article, juste pour que vous ayez toutes les pièces en votre possession. Donc, ce que comptait s'intéresser. Donc là c'est Jésus qui parle. Hein. On était en avance, comme ça pouvait arriver par certains chauffeurs. Mais qu'on décide de faire la pause, et c'est lui qui décide quand on repart. Mais ensuite, on a fini la tournée à l'heure. Du reste... souligne Adama Cissé, son collègue n'a pas été sanctionné. Certificat médical à l'appui, il précise qu'il a ôté ses chaussures en raison de douleurs persistantes à la cheville gauche, des suites d'une fracture mal consolidée. Monsieur Cissé n'avait jamais eu le moindre avertissement avant cet incident, souligne Maître Scavello. On sent bien qu'il y a eu un problème d'image de marque et que cette affaire a été gérée sans prendre... le recul nécessaire. Oui, voir un gros nègre feignant en pleine rue, ça nécessite quand même beaucoup de recul pour appréhender la situation. On est quand même
Attends, du recul sur quoi? Tu vires un type, t'en embauches un autre, mais qui fait une faute, c'est tout. C'est pas de la vie. Oh là, putain, la vache, le recul nécessaire.
Oui, bah,
non, mais dans n'importe quel
pays, te rappelle,
correctement, c'est normal de virer un type pour ça.
Attends, mais tu te rends pas compte de l'offense. Tu veux faire travailler un nègre. Ces gens sont allergiques au travail. Hein. Ouais, torture pour eux.
Mais déjà, tu dis dans un pays normal. Oui, mais tu es en France.
Oui,
déjà,
je parle de la France. Je parle de la France ou de la vie.
Ou le miracle s'opère, si tu veux. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi... voilà.
Alors, notre pays qui est en guerre avec la biologie, quand même. Hein. Enfin, c'est en guerre ouverte. Hein. C'est déclaré, on a décidé de dire non... la race n'existe pas. C'est
voilà, on fait remonter les fleuves à l'envers. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, alors attendez, hein. Monsieur Cissé n'avait jamais eu le moindre avis. Ça, j'ai dit ça. La réaction était-elle proportionnée? Je n'ai jamais vu quelqu'un licencié pour ça. Il existe des degrés dans la sanction avant de renvoyer quelqu'un. Réagit un syndicaliste du groupe de Richebourg, donc un communiste. Hein. Le règlement intérieur stipule que le comportement doit être exemplaire sous peine de sanction, rétorque une porte-parole du groupe. Hein. La filiale a estimé que ce comportement n'était pas conforme ni aux engagements du contrat de travail, ni au règlement intérieur. Alors, messieurs, simplement, bon, en fait, la photo, elle est assez bien décrite. On voit, en fait, un gros nègre habillé en poubelleur, vautré au pied d'un commerce. Enfin, je veux dire, imaginez le commerçant, il a la joie d'avoir un bonobo affalé, machin, et avec les deux magnifiques chaussures posées. Alors là, pour le coup, symétriquement, il y a un cordeau, hein, il y a un cordeau. Le nègre est précis dans ses gestes. Et on voit. Mais ces deux énormes pieds sur lesquels il y a des orteils, mais des ampoules, des continents qui jaillissent comme ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous soupçonnez le Panari de très près. L'homme,
ouais, enfin, le Panari jaune sur le noir, ça se voit pas très bien.
Si, ça vient, ça ressort, ça tire sur le blanc. C'est ce qui est choquant, la peau devient blanche sur un nègre. Enfin, c'est peut-être la gale.
Oui.
Enfin, un parasite quelconque. Bon, voilà. Bon, écoutez, on s'égare. Donc.
Ah, il y a une scène comme ça dans Voyage au bout de la nuit. Avec des pieds de nègre.
Bah, je. Excusez-moi, mais nous franchement, bon, ici, moi je vénère Céline parce que enfin, pour moi c'est un. Enfin, c'est un génie complet, un génie, un prophète, un... Non, pas un prophète, le terme n'est pas bon, c'est un... C'était comment
un visionnaire.
Plus qu'un visionnaire, c'est un oracle. C'est un oracle.
Oui.
C'est un oracle, et comment dire... On est dans le voyage au bout de la nuit, quoi. En fait, c'est ça le problème. On est dans le voyage au bout de la nuit.
C'est-à-dire qu'un nègre comme ça, enfin moi j'ai un petit peu traîné mes guêtres dans le Négristan.
Bah un peu comme Céline.
Ouais, non mais c'est ça, c'est-à-dire que même chez les nègres, un nègre comme ça, il finit très mal.
Ah bon? Tu dirais ça toi?
Ah oui.
Pourquoi? Vas-y, explique pourquoi. Parce que
écoute, déjà ne serait-ce qu'à sa façon de parler, à parler, de faire des bruits avec sa bouche. Alors peut-être suis-je allé dans des coins nègres civilisés, je ne sais pas, hein, bon, si tant est qu'il en existe, mais un nègre qui parle comme ça, déjà ça va pas.
À quel titre, pourquoi?
Ben, c'est à dire que quand il parle, il a du mal avec les consonnes, quoi. Bon, déjà les voyelles c'est pas terrible, mais il parle S, toutes les consonnes c'est S. LS, voilà, c'est ça les consonnes, il n'y en a pas d'autres. Et même chez les. Même chez les nègres, écoute, même chez les nègres, c'est le fond des chiottes des nègres, quoi, ce truc-là. Hein. C'est le fond des chiottes des nègres. Voilà, il faut comprendre que nous farcissons, mais c'est pareil pour les Algériens, quoi. On se farcit leurs chiottes. On se farcit les chiottes des Algériens. Et bien là, on se farcit les chiottes des nègres. Voilà, ceux qui ne veulent pas, les rebuts. Et bien ça arrive en région parisienne et ça finit dans la. C'est pas à proprement parler. Ce n'est pas à proprement parler un fonctionnaire, mais ça finit.
Bah maintenant, il l'est.
Alors maintenant, il l'est, oui. C'est-à-dire que là, MacDab, tu parles.
Morale de l'histoire. Non, mais tu sais. Non, mais
c'est fait, la transsubstantation. Tu as l'homme, tu vois, puis tu as un événement, et puis tout d'un coup, tu accèdes au divin. Et tu.
Tu deviens fonctionnaire.
Et le divin vient par la fonction du fonctionnariat. Tu en arrives là. Donc, enfin, la fonction publique. En France, est un élément de la Trinité. Le nègre, le juif et la fonction publique. Hein, c'est la Sainte Trinité. On y est. Monsieur Traoré,
Si c'est.
C'est pareil, c'est un nègre. Qu'est-ce qu'on en a plus,
Il doit pas être si malheureux que ça. Hein. Je sais pas combien ça gagne, il a peur. Mais...
Non, mais un nègre. Cher MacDav, as-tu déjà vu un nègre malheureux en France? Non,
heureux comme un
Afrique. Heureux comme un nègre en France, comme dirait le Yvan Levaille. Hein, c'est ça.
Y a que les Blancs qui sont malheureux en France. C'est tout.
Bah oui, c'est eux qui payent. C'est eux qui payent, mais oui, même Bon, même quand on leur fait des entourloupes, ils disent oui, d'accord. Oui, tu es nègre, rentre dans ma voiture, vas-y. Bon. Il faut apprendre à dire non, hein, chers amis. Dites non. Il y a Yasman, Derek vous enseigne le no, no man, non. Non.
Nine.
Je peux rentrer dans ta voiture? Non.
Nine, c'est mieux, ouais.
Je peux baiser ta fille pendant
Nine.
que tu me prépares à manger? Non.
Non,
il faut dire non, il faut dire non, il faut dire non.
Je peux envahir ton pays? Non. Pourtant,
Tu
c'est pas
peux
si.
Faire une synagogue dans ta rue? Non.
Non.
Sale juif.
Mais.
Fulbert, vas-y, je t'en prie.
Oui, il y a autre chose, moi, qui m'a frappé dans cet article, qui est à l'origine de l'AFP. Il a été prolongé jusque dans la presse belge francophone, naturellement.
Ah bah oui, c'est normal, Congo oblige.
Ah bah oui, bah oui. Et même si le type est un ivoirien, mais bon.
Oui, enfin bon, on va pas non plus chipoter.
Oui.
C'est français ou un belge, du coup, j'ai pas compris. Explique-moi, Fulbert, je suis confus. Hein. Je parle d'un ivoirien, mais c'est un français ou c'est un belge?
T'as dit ivoirien.
Oui, non, mais est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est belge?
On dit perse en wolof.
Bah, s'il est à Paris, il est sûrement pas belge.
L'arrogance du belge.
L'arrogance. Le vieux wallon, hein. Très, hein. Bon.
Ouais, non, moi ce que je voulais attirer l'attention sur quelque chose, c'est que l'article est pervers, parce que j'ai lu cet article sur RTL Info, et dedans on attire l'attention sur le fait que, bon, il y a une personne qui a photographié ce pauvre nègre fatigué, n'est-ce pas?
Ah
et
oui,
qui a
oui, oui.
causé tout son malheur. Mmh. Et donc, il y a eu une rafale de réaction dans les commentaires qui amène les gens à prendre parti pour le nègre. Et je n'exagère pas en vous
disant. Alors, ce n'est pas seulement ça, Fulbert. C'est-à-dire que cette femme-là a eu son nom divulgué sur les réseaux sociaux, le nom de son mari et, je crois, son adresse.
Adresse, numéro, toutes les coordonnées.
Tout, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire
oui, exact, ouais. J'allais le dire après, mais bon, tu l'as dit, c'est très bien.
Mais oui.
Mais procédons par ordre. Et donc, il y a eu, je dirais, sur, je ne sais pas combien, mais sur 20...
C'est comme ça, c'est de cette manière-là que nous procédons, que les sociétés civilisées, ou pas, comme la nôtre, procèdent en cas de blasphème. C'est comme ça qu'il faut procéder, il faut soigner le mal. Il faut exorciser.
Enfin, bref, sur les 20 commentaires, il y en a 19 qui sont pour le nègre. Ça, c'est certain, parce que bon, on ne peut rien faire sans être photographié par tous ceux qui ont des téléphones, des appareils photo, j'en pensais des meilleurs. Alors, les comparaisons à la con du genre, eh oui, mais on ne dit rien quand il y a tel député qui roupille dans les travées de la Chambre, etc., etc. Ouais, moi, j'ai quand même trouvé ça positif de comparer les députés, la Chambre, à ce nègre qui roupille sur le trottoir.
Oui.
Il est désespérant de voir des blancs qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qui vous sortent des explications pareilles. Moi, j'avais envie d'écrire quelque chose, mais ça ne sert à rien parce qu'on me retire mes commentaires. C'était de leur dire, putain, mais est-ce que vous avez vu une crevée photo avec un éboueur blanc qui roupit sur le trottoir?
Mais non. Pas, évidemment pas. J'ai vu des réactions comme ça. Et oh, c'est ouais, c'est le privilège blanc des nègres, machin. Le privilège blanc, s'il avait été blanc. Non, s'il avait été blanc, déjà, il n'aurait pas ronqué en plein milieu de la rue avec les grolles posés à côté de lui en face d'un commerce, voyez. Ce sont des choses que les blancs ne font pas. Et là, j'ai vu aussi des pétasses et des pisseuses. Oui, alors. Et moi, je fais la sieste au travail. Oui, effectivement, on donne 30 minutes de pause, tu vas manger ton sandwich, tu as le droit d'aller dans ta voiture, d'aller dormir 20 minutes. Oui, effectivement, c'est pas pour autant que tu vas aller t'affaler en plein milieu de la voie publique, pieds nus. Mais c'est, non, mais, je veux dire, le fonctionnement cérébral n'est plus là, quoi. Et j'ai vu, je sais pas combien de pétasses comme ça. Donc, essayer d'inverser le truc, essayer de, et notez bien, oui, enfin, de racialiser
on,
le machin.
On parle quand même de nana. Que...
Oui, non, mais je sais bien. Moi,
Gandalf, excuse. Oui, oui, non, mais c'est une femme qui va. Bon, deux femmes qui bossent à côté.
On t'a dit une femme, là, tu commences à phrase par une femme, j'ai déjà décroché.
Non, mais une femme qui bosse, entre guillemets. Quand tu mets deux femmes qui bossent à côté l'une de l'autre, c'est quoi leur travail? Bah, c'est de parler entre elles.
Ouais, c'est bien ça. Sûr.
Ouais, ça va pas plus loin.
Non, mais tout ça pour dire, simplement, tout ça pour dire.
Elles ne sont pas multitâches, elles ne peuvent pas faire de trucs à la fois.
Tout ça pour dire, si tu veux, ils ont essayé. Enfin, pour le coup, il n'y a pas que l'extrême droite qui racialise. Hein, je veux dire, en face, ça racialise à fond. Pour essayer d'expliquer que voilà, le mec était victime d'opérations racistes, etc. Alors, du coup, la femme qui a réalisé la photo, c'est une électrice de Fillon. En gros, c'est ça, hein, c'est une espèce de droitarde. Bourgeoise, mais probablement même pas raciste, enfin pas vraiment raciste, pas consciemment raciste, peut-être un peu xénophobe sur les bords, mais pas raciste.
Oui, ouais, disons consciente un petit peu des intérêts voilà, de son portefeuille. Voilà.
C'est ça, voilà. Oh là
vaguement,
là,
ouais. Vaguement.
Ouais. Ouais, tiens, encore les socialos qui claquent le pognon en payant des noirs, rien foutre, quoi, tu vois, mais pas non plus comme nous ici qui sommes. Adolf Hitler, hein, donc c'est complètement autre chose. Oui, et donc voilà, elle a sorti ça. Et par contre, elle s'est fait cramer. Est-ce que vous avez
Elle a dû supprimer son compte. Hein,
non mais c'est pire que ça. C'est bien pire que ça parce que ses coordonnées téléphoniques ont été données, son adresse a été donnée. Par qui, d'après vous? Les bougnoules de la municipalité de Paris, ça va sans dire, évidemment. Les mecs qui se sont passés le mot, ils ont tout foutu en ligne. Là, tout d'un coup. Il n'y a pas d'histoire de le gouvernement se mobilise pour lutter, vous savez, comme quand c'est les juifs. Dès qu'un juif, on lui tire un petit peu sur sa papillote, aussitôt, il y a tout le gouvernement qui se mobilise. Là, il y a une blanche, toutes ses coordonnées sont balancées, etc. C'est des appels au meurtre, la fille est harcelée, etc.
Tout va bien.
Là, c'est la presse de gauche qui se mobilise pour dire, mais c'est scandaleux, regardez le pauvre Adama Cissé, machin. Et là, je vous pose la question, on a vu le Adama Cissé sur toutes les chaînes d'infos en continu. On a eu ce gros nègre feignant sur toutes les chaînes d'infos.
Excuse-moi, cher Gandalf, mais il ne me semble pas avoir vu une communication officielle du parti de
anti-immigration.
Représenter les Français.
Disons anti-immigration, disons.
Oui, non, mais même les Français, tu vois. Il ne me semble pas avoir vu de communication officielle du parti Rassemblement Bleu Marine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, Rassemblement National.
Égypte.
Voilà. Égypte, ouais, c'est tout le temps. Ouais.
Égypte.
À propos de ce cas-là, alors peut-être y a eu un tweet à droite à gauche, mais.
Perpignan.
Oui. Ouais, mais. Alors peut-être, oui, Robert Ménard fait des rassemblements et des rabbins. C'est vrai que c'est intéressant.
Ah bah les crèches générales, toujours avec des rabbins, sinon c'est pas des vrais crèches générales. Oui,
ça va de soi. Ça. Sinon, ça c'est Noël n'est pas
complet. C'est pas vraiment Noël.
Non, pas vraiment Noël.
Si on a Hanouka, bon...
Mais voilà, enfin, bon, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure de cette farce.
Oui. Non,
voilà,
mais ça,
voilà, je ne sais pas, une occasion qu'aurait pu saisir politiquement le parti censé représenter les Français qui ma foi, une certaine rectitude. Hein, voilà, je vois une espèce de feignasse affalé, payer l'argent public dans ma rue, qu'il soit nègre ou pas.
Bon,
ça n'aurait pu qu'être nègre de toute manière.
Attends,
hein,
tu parles de Marine Le Pen ou tu parles du nègre en question? Je sais pas.
Oui, voilà, entre feignants, on les confond.
Non, mais voilà. Ben oui, non, mais oui, tu as un petit peu résumé le cœur du problème. C'est-à-dire que Marine Le Pen est une espèce de feignasse qui a les mêmes préoccupations que Jésus. Hein,
Adama Cissé, oui.
Oui, c'est-à-dire boire du rhum et écouter du coupé décalé. Ouais, c'est ça.
Et en ce moment, elle fait du cheval, voilà, très contente.
Elle se prend en photo avec les chevaux.
Attendez, gardez vos munitions.
Oui. c'est chargé, ça va arriver. Ouais, vas-y.
C'est difficile. Bon, en tout cas, autisme radical consumé, achevé. Bon, non mais ce qui m'a frappé, bon, un peu plus sur un ton un peu plus sérieux, c'est de voir en fait que quand une contribuable française se scandalise en fait de voir son argent dilapidé dans la création d'une clientèle ethnique pour le compte d'une municipalité socialiste, et qu'on lui dit, mais attendez, non mais là ça devient trop, ça, c'est trop quoi, le verrier. Vos gus, ils sont en train de ronquer carrément en pleine rue, enfin ils ont les pieds à l'air comme carrément au Sénégal, et ça va quoi, où va notre argent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la vidéo traîne de trop et que ça parce que c'est les municipales, hein. La thématique, c'est les municipales. N'oublie pas, la photo, elle a été prise en 2018, donc c'est une vieille photo. Elle traîne sur les réseaux sociaux. Les municipales approchent et qu'est-ce qu'ils font? Regardez les médias de gauche, Hidalgo et toute sa bande, et qui renversent la vapeur en essayant de dire ah oui, mais en fait c'est un procès en racisme. Enfin, c'est des grosses ficelles quoi.
C'est arrivé au prud'homme là récemment. C'est pour ça que c'est
oui, non mais attends, c'est évidemment politisé et en plus le mec.
C'est politisé par qui? Non, mais
bien sûr.
La justice, parmi les juges. Hein,
bien sûr. Mais le truc, mais les juges, mais pas seulement, les médias. Regardez, Adama Cissé, tout d'un coup, devient le martyr de la France blanche oppressive qui ose demander à un nègre de ne pas faire la sieste pendant qu'il bosse.
La francophonie, martyr de la francophonie.
Non, mais le martyr de la francophonie. Oui.
Hanouna.
Oui, et ensuite, voilà. Il passe chez Hanouna, il est sur toutes les grandes chaînes.
On l'applaudit, on pleure son martyr. Voilà. Une grande séance de foi, hein. C'est une déclaration. Assez...
Non, mais je veux dire, non, mais simplement, c'est pour vous dire que dans quoi on tombe, quoi. Il y a des gens au quotidien, une note plus sérieuse, des gens au quotidien, ils souffrent. Je veux dire, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ou vous avez des chefs d'entreprise, voilà, ils sont au bord du suicide parce qu'ils n'y arrivent pas. Et des gens dont on parle jamais.
Oui.
Des gens dont on parle jamais. Et là, on voit un nègre.
La prime en France est à celui qui hurle le plus fort.
Oui, non, mais, non, mais c'est
même... Le nègre hurle.
Ouais, mais c'est pas trop ça. Non, c'est tout, c'est un tout univers. Oui. C'est pas uniquement le nègre dans cette affaire. Il y a autre chose. Il y a tout un environnement. Il y a toute une caisse médiatique. Il y a des journalistes d'extrême gauche. Il y a des juifs. Il y a toute cette chiasse. Tous ces socialistes qui gèrent les médias. Toute cette merde. Et voilà, ils se mettent à vibrer au même rythme sur cette histoire. Je veux dire, c'est un écosystème. C'est un écosystème. Et moi, quand je vois ça, excusez-moi, ce sale nègre, premièrement, je le renvoie dans son trou à merde. Je commence par ça. Ensuite, oui. Je remonte dans
le... Tu veux le renvoyer à Paris?
Je le renvoie dans son pays de merde. Ensuite, je procède avec la phase suivante. Qui c'est qui a seulement eu l'idée de l'embaucher? Là, j'arrive sur l'entreprise, je les cisaille, et je remonte enfin à ceux qui font la sous-traitance, c'est-à-dire qui ont accepté vis-à-vis de cette entreprise de les engager, et je leur dis, vous êtes des bons à rien, je vous fous tous dehors, probablement je vous envoie au bagne. Voilà. Et là, je tombe sur Hidalgo, et là, je dis, et je répète ce que j'ai toujours dit vis-à-vis de l'immigration maghrébine, stop. Hein, Hidalgo, stop. Voilà, retour au Maroc.
Oui, enfin oui, l'Espagne ou le Maroc, c'est vrai que c'est un petit peu pareil. Hein.
L'Andalousie, hein, excusez-moi.
Oui, bon, oui. Non, mais si tu veux, il y a quelque chose quand même dans cette affaire-là, c'est que effectivement le nègre, on le dit, oui, donc tu vas dire que t'es pas d'accord. Et ouais, pas d'accord, pas de problème. Donc tu as toute la gauche institutionnalisée, les médias et avec en tête de pont. Le Schwartz là.
Les vailles Schwartz, on sait plus trop.
Non, mais le Schwartz, le noir, là, la figue, le pruneau.
Lequel? Il y a quelques-uns. Hein.
Mais non, mais qui, chez lequel est passé notre ami Cissé,
Hanouna.
Jésus. Hanouna, voilà, il est passé donc chez le Schwartz Hanouna. Cet écho médiatique avec des parenthèses faites par nos amis Hanouna et compagnie. Et des goy qui ne se plaignent pas, qui acceptent un petit peu tout. Et ouais,
ils sont glandus.
Et dès qu'ils voient que. Enfin, c'est malheureux, c'est-à-dire que dès qu'un goy voit quelqu'un qui manifeste, qui extériorise une souffrance, eh bien, il se sent solidaire de ça. Et puis, il est totalement désarmé. C'est le principe un petit peu du judaïsme, de la Shoah, de ce que vous voulez. Il va falloir. Enfin, c'est pas bon. Soit on en sort de ça, hein, soit ça va nous assommer jusqu'au bout. Parce que là c'est un nègre lambda qu'on nous a sorti. On nous a déjà sorti les 6 millions de juifs qu'il a.
C'est-à-dire, si tu veux, on est passé de du Spider-Man nègre. Hein, Non mais le Spider-Man nègre là qui vole en escaladant les trucs. Bon, effectivement, ça en dit long quand même sur l'état psychologique de la France. C'est-à-dire qu'on considère un nègre qui fait la sieste au boulot comme un martyr absolu qui doit être dont la gueule doit être affichée sur toutes les chaînes de télévision en continu. Ça en dit quand même long sur l'état psychologique du pays. Ça en dit long.
Ça fait en plus écho aux manifestations de boomers extrémistes que nous pouvons voir.
On va en parler dans une partie.
Mais oui, non, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui, effectivement, dès qu'on veut les faire travailler.
Oui, c'est ça. Il y a une révolte contre le travail, en fait.
Il y a une certaine compréhension de certaines personnes. Que nous n'aimons pas forcément.
C'est très simple, c'est-à-dire que la gauche...
Une conjuration des parasites.
Non, la gauche communie avec les nègres dans la feignantise.
C'est pas que la gauche, c'est-à-dire que c'est les parasites qui communient avec
Oui, non, mais gauche, d'accord, mais je veux dire, attention, la gauche psychologique, c'est-à-dire le communisme mental qui prévaut aujourd'hui en France, communie avec les nègres pour ne rien branler sous un baobab. C'est exactement ça qui se passe. Hein. Et c'est une lutte, en fait, entre l'arianisme... La négritude ambiante et le parasitisme sémitique. Donc le parasitisme sémitique s'alliant bien évidemment avec la négritude. Mais nous avons chez nous aussi des gens qui ont des poils dans la main, des poux, qui s'enquistent à gauche.
Des gens qui ont eu des augmentations automatiques, qui se retrouvent à des âges avancés.
Des fonctionnaires qui sont nés après la guerre, effectivement, oui.
Voilà, c'est ça. Hein. Oui.
Voilà, et ces gens-là communient avec les nègres. Voilà.
Oui.
Aux frais de ceux qui travaillent, c'est ça que je veux dire.
Oui, aux frais de ceux qui travaillent, qui essaient de travailler et de dégager un petit revenu, oui.
Oui, des blancs qui essaient de survivre à la sueur de leur front, ouais, en gros.
Ils devraient dire merci.
Et prendre des gens dans leur voiture.
Oui.
On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, les amis. Messieurs, brièvement, parce que bon, il faut quand même en parler aussi. Je sais que vous attendiez ça avec beaucoup d'impatience, tout comme moi. C'était l'annonce tant attendue, donc en janvier 2020, de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022. Alors, 3 ans après 2017, ça passe vite quand même, on avait couvert aussi cette élection. Je me rappelle encore qu'on avait parlé du débat, je me rappelle que Derrick avait su mettre les mots sur les mots, pour paraphraser Marine Le Pen, qui aime bien utiliser cette expression. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense... Bon, je suis pas sûr encore. Hein. Je pense que je vais aller... Enfin, la pêche à la truite, ça me plaît assez bien quand même. Vous, quelles sont vos alternatives en fait?
Ouais, alors moi, je suis quand même très peiné qu'il y ait quand même beaucoup... Enfin, qu'il y ait des gens parmi nos milieux qui...
Oui,
ils
y croient, peut-être.
Ouais, putain, qu'ils veulent nous vendre la chose. C'est-à-dire qu'on est en 2020, c'est en 2022 le truc. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ils vont... là, ils ont commencé. Ils ont commencé à...
Ça va être le bombardement, ouais.
Marine Le Pen, on va y arriver.
Cette fois-ci, c'est la bonne.
Oui, oui, ou alors on va avancer, on va faire chier. J'ai des spasmes rien que d'entendre ça. Quoi. Ça me tétanise. Quoi.
Bah du coup, c'est un peu ma question. Du coup, toi, plutôt pêche à la truite, plutôt randonnée, comment tu prévois les choses?
Ah oui, très certainement, au mois de mai, je serai en randonnée, peut-être à l'étranger, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je me casse.
À Paris.
Je vais pas voir ça.
À Paris? Ah non, bah non.
Ouais, surtout pas à Paris.
Ah, je sais pas, à l'étranger.
En non, Estonie, mais peut-être, pour faire plaisir.
Pour faire peur, pour faire peur.
Oh. Ouais, ouais, j'irai comploter.
Alors déjà, grande surprise, hein. Incroyable, oui. Marine Le Pen se présente. Il y avait un suspense absolument énorme.
Intenable. On attendait le dénouement, on l'a, quoi, tu vois.
Ouais. Donc, super. Non, mais si on veut une force politique qui soit vraiment d'extrême droite, tout le monde parle d'extrême droite, mais d'extrême droite,
alors, en fait, alors pas, moi, en France. Je ne crois pas aux élections, donc j'en ai rien à branler, en fait.
Non, ouais, bien sûr, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir l'aube dorée que le Parti communiste, quelque part. Donc, si jamais...
J'en suis à la politique du pire. Moi, je pense que si on pouvait mettre Bernard-Henri Lévy à la présidence de la République, je serais très favorable, en fait.
C'est exactement ce que je voulais dire. Très sérieusement. Il faut tout ou il faut rien. Donc, soit ça s'effondre très très vite et on passe à autre chose. Donc, par exemple, le Front National, hein, super. Ou même la démocratie. Ok, on passe à autre chose. J'ai une idée sur la question.
Non, mais le dernier parti républicain de France, c'est le Front National. Enfin, c'est le dernier parti qui croit à la République. Même Macron n'y croit pas. Ça l'amuse, mais il n'y croit pas. Enfin, c'est pas quelqu'un qui croit à la République. La preuve, sa manière de gérer les affaires, etc., on voit bien que c'est un mec qui croit à la répression, quoi. Je veux dire, alors que le Front National, c'est le dernier parti de peigne-cul qui croit que la France, tu peux la gouverner avec les élections. Enfin, je veux dire, c'est à tomber de sa chaise, mais non, mais bon.
Bah, de toute façon, moi, de base, hein, j'ai exprimé, je pense qu'on est tous sur la même position ici, hein, la démocratie en général, c'est un poison. Enfin, moi,
oui,
j'en veux pas.
C'est ça, oui.
Je suis opposé à ça. Je me sens plus excité par Adolf Hitler, c'est clair.
Oui, moi aussi. Oui,
et bon, pour que cet événement arrive, en fait, pour qu'une révolution, qu'elle soit même de l'extrême gauche, de l'extrême droite, arrive, peu importe, il faudra passer par la case effondrement économique. Je pense que tant que les frigos seront pleins et que les ventres seront pleins, il y aura malheureusement pas trop l'alternative.
Et que les vieux auront d'excellentes retraites pour aller en croisière. Surtout quand ils ont beaucoup travaillé à l'éducation nationale.
C'est surtout que tant que les nègres pourront manger à leur faim. Hein,
tu défends les fonctionnaires?
Non, oui, c'est-à-dire que
en retraite
tant que les nègres
défends Adama. Adama qui fonctionne.
Je pense que le système français fournira aux nègres subsistance pour remplir sa panse. Eh bien, le système.
Putain, mais j'ai l'image d'un ventre de nègre gonflé, là, tu vois, et ça me fait peur.
Alors, moi, j'ai
Le ventre fécond.
Alors, cher ami, j'ai l'image d'une caricature, enfin, d'une caricature qui n'est pas si caricaturale, mais d'une œuvre lumineuse d'un caricaturiste américain dont le pseudonyme est Wyatt Man.
Wyatt Man, l'homme blanc, hein, non, en gros.
Où l'on a un espèce de juif, avec, enfin, une espèce de, un youtre avec son nez caractéristique, qui ordonne au blanc, donc qui est enchaîné pied, hein, avec une pelle, de ramasser ce qu'il y a par terre pour nourrir une énorme bête.
Non, pas pour ramasser ce qu'il y a par terre, c'est pour remplir la bouche du nègre de dollars.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ramasse une pile de dollars avec une pelle, et il les renvoie dans la bouche du nègre qui a la bouche ouverte et qui a les yeux particulièrement haineux. C'est-à-dire qu'il est, j'ai faim, tu vois, le nègre a faim. Quoi.
Oui, en fait, c'est l'image du cheminot du temps des locomotives à vapeur. Hein, c'est que tu remplis l'image, c'est ça. C'est tu vois un homme blanc enchaîné, qui est obligé, à la place du charbon, de remplir la bouche...
Le train nègre,
ouais, qui est un foyer nègre, avec des dollars, à la place donc de la locomotive. Quoi. Tu vois l'homme qui est en train de subir, de souffrir, sous la tutelle, avec son fouet, d'un rabbin. Et je trouve que ça résume totalement la promesse républicaine. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça.
Tout est dit.
Tout est dit, voilà.
Bon, Marine Le Pen pose à côté de chevaux. On avait vu la photo.
Il faut quand même parler de l'opération
c'est communication. C'est son chat et des chevaux, quoi.
Moi, je m'étais égaré avec l'épopée du Parti National Socialiste et d'Adolf Hitler, mon gars. Oui, revenons aux choses sérieuses, donc aux élections présidentielles 2022 en France.
Donc Marine Le Pen pose avec des chevaux. Voilà. Pose avec des chevaux. Alors, après avoir, pour la campagne de 2017, fait une magnifique photo qui m'a terrorisé pendant des années. Marine Le Pen sur un voilier avec un éclairage particulièrement suspect et des rectifications numériques sur son visage encore plus suspectes. Là, on a Marine Le Pen avec des chevaux.
Alors c'est vrai que Marine Le Pen sur son voilier, ça faisait très Andersen le Viking.
Attention, les chevaux n'ont rien fait de mal dans l'affaire.
Oui, ben moi, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai pensé à une tranche de cheval cru, assaisonnée de persil, de gros sel et d'huile d'olive.
Moi, j'ai pas pensé à ça du tout.
Pour mon repas.
Marine Le Pen aime beaucoup l'huile d'olive, oui.
Non, j'ai pas pensé à ça.
Ce cheval, j'ai eu faim.
Moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pensé.
J'ai vu mort.
J'ai pensé à une chose, c'est que Marine Le Pen était candidate au contrôle de l'arme nucléaire française. Ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très très peur. Imaginez-vous ça. Marine Le Pen contrôle enfin l'arme nucléaire française, c'est-à-dire que le Sénégal contrôle enfin l'arme nucléaire française. Ce n'est pas possible. Je vais envoyer un télégramme à Moscou. Intervenez vite.
Oh, je ne pense pas que le Sénégal ait la mauvaise idée de mettre une femme à la tête de son pays.
Oui, c'est vrai. C'est... Alors, qui ça pourrait
être? Il y a encore quelques bons. Ce sont des nègres, mais bon, quand même.
Vous savez quoi, on en arrive à un point tel que même si Israël contrôlait l'arme nucléaire française, bon, ce qui est pratiquement le cas, ça serait plus sûr que Marine Le Pen.
Quitte à ce que les juifs contrôlent la chose, oui, autant qu'ils mettent un juif.
Allez, Bibi.
On aime bien l'honnêteté. Quoi.
Voilà, c'est des juifs un peu.
Ah, ben écoutez, je suis pour Meir Habib. Terroriste israélien
contrôle la nucléaire française. Oui. Au moins tout est dit.
Oui, normal.
Tout est dit. Putain, on est les premiers antisémites de toute l'histoire de France à appeler aux Juifs à contrôler l'arme nucléaire française.
Nous réclamons, nous réclamons, nous à corps et à cri, le contrôle juif de la France.
D'être sale, pour prendre le compte. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas possible.
C'est déjà prévu, hein, puisque l'année passée a été installé au sein du RN un organisme qui veille à contrôler, dirigé par un juif, mais je ne retombe pas sur son nom, qui veille
Perpignan,
à
moi je l'appelle
éviter
Perpignan.
Les dérapages antisémites dans les discussions du parti.
On a les deux, on a Perpignan et on a, comment dirais-je, Le Caire.
Ah, alors, oui.
On a Le Caire qui vise...
Robocop.
Ouais, l'autre machin, là. Donc, alors, non, mais il fait très mal vivre être blanc aujourd'hui au Rassemblement National. Enfin, c'est une tare, d'ailleurs. Putain, je pense...
Blanc et hétérosexuel.
Non, mais franchement, si t'es blanc... Alors, par contre, comment dire, à mon sens, chez Macron, tu peux être un blanc raciste si t'es PD. Voilà, en gros, voilà, tu...
Non, mais... Non, ça c'est chez Marine Le Pen, tu parles. Enfin,
ah oui, enfin, je sais pas bien en fait.
Oui.
C'est compliqué quand même la France, hein, politiquement. Non, moi je partais sur débat simple. En gros, t'es hétérosexuel, t'es un homme blanc, t'as envie de contrôler ton pays, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en 2020 de demander des trucs comme ça. Alors bon, j'ai pas tous les paramètres non plus, quoi. Je bosse, hein. Je traîne ma misère aussi, faut bien se l'avouer, quoi. Bon, du coup, Marine Le Pen 2022, ça vous... Non, pas vraiment, en fait.
Ouais, non. Non.
Ouais.
Ouais. Bah, ouais. Je serais assez...
Mais attendez, peut-être avec oui. un film, je sais pas, un film de promotion, non?
Avec des dauphins, peut-être, des dauphins.
Ah putain, aidez un peu, quoi, je sais pas, mettez un peu d'enthousiasme. Non.
C'est vrai que non. Marine Le Pen n'arrive pas à joindre, à réunir son camp, donc on voit mal comment on aurait le...
Ah moi je trouve qu'il réunit assez bien la gauche, à titre personnel, hein, je trouve que...
Ouais,
bon,
mais vu
non, la gauche, je dégueule dessus, mais enfin, sur les idées de gauche, elle est quand même assez consensuelle, je veux dire.
Ah oui, mais c'est vrai oui, elle réunit très bien un programme sur les idées de gauche, mm-hmm. mais elle n'arrive pas à réunir les électeurs de gauche.
Ah oui, donc elle, parce qu'elle, elle fait les concessions, mais elle gratte rien derrière.
Il y a quand même, bon, je vois qu'il y a des gens qui disent, oui, non, mais on va faire comme en Italie, etc.
Oui, en Italie, la gauche est au pouvoir, d'ailleurs, pas mal.
Déjà, la gauche est au pouvoir, mais bon, non, mais on va faire une espèce d'alliance entre les mondialistes contre les anti-mondialistes. Bon, ça ne marchera pas. La nana s'appelle Le Pen, donc c'est-à-dire qu'elle a le sceau du diable, hein, qui est marqué par la synagogue. Donc, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, qu'elle s'enfile toutes les bites séfarades qu'elle veut, ça ne servira à rien. Donc, oubliez. Oubliez de ça tout de suite. C'est 2 ans, voilà. Je vous fais gagner 2 ans. Hein, c'est...
Même en fait, bah, demande.
Moi, j'ai envie de te dire Olympe Fatima Le Pen 2037. Hein. Attends.
Là, tu m'intéresses. Là, tu m'intéresses.
Oui, là, c'est de suite, il y a plus d'avenir, du coup.
Je vais réserver le nom de domaine, tiens.
Alors, messieurs, oh, putain. Non, en fait, non, mais Olympe Fatima, là, je suis.
C'est énorme.
Tout est déposé, putain, bordel. On contrôle tout. Oh. J'ai envie de dire du mal. Bon, ok. Restons simples. Dernier point de notre discussion de cette semaine, et c'est très différent, parce que nous allons parler d'une expérience sociale qui a été réalisée en Union soviétique, qui a toujours lieu. C'est une expérience qui n'est pas terminée au moment où je parle, et qui vise à essayer de comprendre le comportement des mammifères face à la domestication. N'est-ce pas ? Donc, je crois que nos auditeurs vont retirer de tout cela certaines leçons. En tout cas, ils vont s'interroger. Je vais pas dire qu'on va apporter des réponses, parce que ce serait présomptueux quand même, mais cette expérience sociale mérite d'être connue du plus grand nombre. Certains la connaissent déjà, bien sûr, mais beaucoup d'autres ne la connaissent pas. Alors, c'est une expérience qui n'est pas du tout de l'ordre du complot, hein. Ce n'est pas une... C'est pas une rumeur du tout, hein. C'est quelque chose qui est très bien documenté, c'est une expérience scientifique qui a été réalisée en Union soviétique, qui est connue par les scientifiques étrangers. Donc, rassurez-vous, hein, ce n'est pas du tout de l'ordre de la spéculation. Alors là, je lis en fait la page de Wikipédia. Alors vous allez me dire, Wikipédia, c'est pas du tout une source de qualité. Vous avez raison, Wikipédia ne peut pas être considéré comme une source fiable. Mais inversement, ça peut être considéré comme une source fiable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, comme c'est tellement politiquement correct, si des éléments sont sur Wikipédia et restent sur Wikipédia, ça veut dire que, au terme du politiquement correct, ça passe. Donc, si ça reste sur Wikipédia, et même si c'est un petit peu polémique, ça veut dire que ça ne fait pas l'ombre d'un doute, même pour la doxa ambiante. Voilà, c'est pour ça que je cite Wikipédia. Ceci étant dit, je vous rassure, il y a beaucoup d'autres articles sur cette expérience, et on n'est pas limité à Wikipédia. Mais il y a aussi un autre point qui m'intéresse en citant Wikipédia, c'est que tous nos auditeurs peuvent aller lire l'article en question et vérifier que la source qui est lue en direct est bien celle-là. Donc voilà. Alors, l'expérience en question s'appelle le renard argenté domestiqué. Donc là, je vous lis maintenant l'article sur cette expérience sociale. Le renard argenté apprivoisé, qui est présenté sous le nom de renard de Sibérie, est une forme domestique de renard argenté. Sous l'effet d'un élevage sélectif, ces nouveaux renards sont devenus plus dociles et ont développé des traits typiquement canins, donc relatifs aux chiens. Cet élevage expérimental, résultat de 50 années de recherche en Union soviétique, en URSS, puis en Russie, a été mis en place par le scientifique soviétique Dmitri Konstantinovitch Beliaïev, qui est né en 1917 et qui est mort en 1985, et l'expérience a commencé en 1959. Cette expérience se poursuit actuellement... Alors, un instant... Donc, se poursuit à la cité académique de la ville de Novosibirsk, en Sibérie, à l'Institut de cytologie et de génétique, sous la supervision donc de Lyudmila Nikolaïevna. Vous saurez tout. Alors, l'expérience avait été lancée par des scientifiques intéressés par le thème de la domestication et du processus par lequel les loups sont devenus des chiens apprivoisés et domestiques. Il avait été remarqué chez les chiens adultes le maintien de traits juvéniles à la fois morphologiques, comme des crânes plus larges que la normale par rapport à leur longueur, ainsi que comportementaux comme les gémissements, les aboiements et les attitudes de soumission. À une époque où le lysenkisme, donc théorie génétique pseudo-scientifique prônée par Lysenko, était une doctrine d'État officielle, l'engagement de Dmitri Belaïev pour la génétique classique lui coûta son poste à la tête du département pour l'élevage des animaux à fourrure au laboratoire central de recherche pour la fourrure d'élevage de Moscou en 1948. Donc c'est un scientifique qui a été purgé, parce qu'en fait c'était un scientifique classique, en fait, qui ne collait pas avec le lysenkisme dominant. Durant les années 50, et donc il poursuit ses recherches en génétique sous le couvert d'études en physiologie animale. Dmitri Beliaïev pensait que le facteur sélectionné lors de la domestication n'était ni la taille, ni la reproduction, mais des traits comportementaux, en particulier la propension à la domestication. Il effectua la sélection en fonction de la faible distance de fuite, c'est-à-dire la distance minimale à laquelle l'animal pouvait être approché jusqu'à ce qu'il cherche à fuir par rapport à un homme, face à un homme. La sélection de ce comportement imitait le processus naturel de sélection qui avait dû se reproduire chez les ancêtres des chiens. Belialiev pensait que la domesticabilité, plus que n'importe quel autre trait, avait certainement déterminé la capacité d'adaptation d'un animal à la vie avec les humains. Donc, puisque le comportement prend ses racines dans la biologie, sélectionner pour l'apprivoisement et contre l'agressivité revenait à sélectionner des modifications physiologiques des systèmes qui gouvernent les hormones et la neurochimie de l'organisme, Dmitri Belialiev décida de tester sa théorie en apprivoisant des renards, plus précisément des renards argentés, une version plus foncée du renard roux. Il en soumit une population à un processus d'apprivoisement qui impliquait une forte pression sélective pour une domesticabilité innée. Alors, c'est un peu barbare, mais il veut dire, en gros, je vais chercher chez les renards sauvages ceux qui sont le plus visiblement disposés à l'approche de l'homme. Voilà, ceux qui sont les plus amicaux. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, ceux qui sont le plus, ceux qui acceptent le plus la domestication. Voilà. Dans l'idée de comprendre comment les chiens ont pu être créés à partir des loups, en fait. Et voilà, c'est un peu l'objet hein, de l'expérimentation. Donc, les scientifiques russes possède ainsi aujourd'hui une population de renards domestiqués dont le tempérament et le comportement diffèrent fondamentalement de ceux de leurs ancêtres sauvages. On peut constater d'importants changements physiologiques et morphologiques, tels que les pelages marbrés ou tachetés. D'après de nombreux scientifiques, ces changements liés à la sélection pour la domesticabilité sont dus à une production plus faible d'adrénaline chez la nouvelle race, ce qui provoquerait des changements physiologiques en très peu de générations et générerait ainsi de nouvelles combinaisons génétiques inédites chez les espèces d'origine. Ceci montre que la sélection pour la domesticabilité, c'est-à-dire la faible distance de fuite, produit des changements qui influencent également l'apparition d'autres traits typiquement canins, tels que la queue dressée et le fait d'être en chaleur deux fois plutôt qu'une seule fois par an. Les renards domestiqués ont plus de sérotonine, moins d'adrénaline, et leur période de reproduction n'a plus lieu une fois par an vers janvier-février, comme les renards sauvages, mais des accouplements ont lieu en dehors de cette période. L'apparence présente également des différences par rapport à la version sauvage. La fourrure peut présenter des couleurs variées, blanc, roux, et même présenter des taches de couleur. Les oreilles sont parfois tombantes, le museau peut être raccourci ou allongé, les pattes raccourcies. Des traits juvéniles de néoténie apparaissent également. Le centre de recherche a également tenté l'élevage de renards féroces pour étudier les comportements agressifs. Ces renards ont tendance à mordre les humains et n'en montrent pas par ailleurs de signes de peur. Donc en fait, c'est un peu laborieux à lire, excusez-moi, mais c'est une expérience qui vaut le coup. Donc ils ont poussé dans les deux directions. Ils ont poussé dans la direction de la domesticabilité, donc les renards les mieux disposés à l'égard de l'être humain, et les renards les moins bien disposés à l'égard de l'être humain, quitte à les sélectionner génétiquement pour être de plus en plus agressifs, génération après génération, vis-à-vis de l'être humain. Donc, une étude comportementale menée par l'Union soviétique, système communiste qui cherchait bien évidemment à gérer ses populations, et qui a apporté un certain nombre de réponses. Alors, excusez-moi d'avoir été long, une lecture laborieuse, j'en conviens, mais qui nous apprend des choses. Qu'est-ce que vous voulez me dire de cette expérience IVIO qui continue aujourd'hui?
Alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'on s'imagine en fait l'évolution comme étant un processus particulièrement long, avec des modifications qui, de génération en génération, sont assez peu visibles. Mais on apprend que ça se passe en deux ou trois générations. C'est-à-dire...
Rien.
Si on compare à l'homme, c'est 80 ans, quoi. 80, 90 ans. Ça se passe très rapidement.
Quand on y réfléchit, on se rend compte qu'en deux générations, trois générations, 80 ans, à l'échelle de l'évolution humaine, le phénotype change.
Oui, totalement. Quand tu regardes les photos de la fin du 19e, moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup.
Ouais.
Évidemment, il y avait pas de gros, mais c'est le visage.
Ouais.
Je suis toujours surpris des visages. Le visage était beaucoup plus émacié. Et surtout, il y a des yeux extrêmement perçants.
Ouais.
Je sais pas si t'as noté ça, il y a une forme de vitalité dans le regard qu'on ne retrouve plus du tout maintenant.
En fait, c'est ce que je disais, hein, je vous invite à regarder les cartes postales d'antan, de paysans ou de marins qui sont pris, ils ne sont pas du tout des figurants, ce sont des gens qui sont dans leur milieu, mais qui ont un siècle, plus d'un siècle. Et vous allez voir des Français qui sont des très beaux Français. Très beaux Français. Encore plus vrai lorsque vous prenez les poilus de 1914-1918, ces soldats extraordinaires. On croirait voir les soldats de Vercingétorix, quoi. On voit les Gaulois, quoi. On voit les troupes de Vercingétorix, quoi. Évidemment, c'est pas le même armement, ça, on s'entend. Mais finalement, la paysannerie française, du terroir, des provinces, des régions françaises, qui finalement est contrainte sous la torture pratiquement de dégueuler le meilleur de sa race pour aller défendre les frontières de la France, eh bien montre un très beau carottage racial, si vous me permettez cette expression, de ce qu'est la France en 1914-1918. On voit là de très beaux Français. Et puis aujourd'hui, on voit des carottages en permanence. Il y a des carottages d'un autre niveau. Hein. Carottage, sur-carottage même, dans tous les sens. Facebook, etc. Et vous voyez que vous avez affaire à des moules molles, des moules défraîchies, laiteuses, dégueulasses. Les mecs, l'air ébahi, ils savent pas trop exactement où ils sont. Tu vois, pas du tout de force de volonté dans le regard.
Alors il y a quand même un truc qui a beaucoup changé. C'est qu'auparavant, les gens vieillissaient très très vite.
Oui, mais avec noblesse, si tu observes. Avec noblesse, c'est-à-dire
que la vieillesse. Absolument.
C'est ça. Maintenant, tu vieillis, t'es moche. À l'époque, tu vieillis, t'es beau.
Oui, mais à 40 ans, t'étais. Enfin,
t'es un vieux, t'es un vieux.
T'es vraiment vieilli.
Ce que tu dis, ça fait écho avec la dernière partie de l'article là, que tu as lu. C'est la néothénie, les traits de caractère juvéniles qui apparaissent, qui sont sélectionnés chez les individus qui sont domestiqués. Donc chez les populations de renards, et c'est le cas aussi chez les humains. Hein. Tu as des sociétés développées où tu as certains conforts, etc. Au plus, tu vas avoir une sélection vers les femmes qui seront choisies par rapport à leurs traits de visage, etc. Elles vont rester jeunes, assez petites, assez chétives, des caractères juvéniles même à l'âge adulte. Bah, en gros, la néothénie, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir des caractères juvéniles à l'âge adulte. Et tu répètes ça X fois sur N générations, ça donne des résultats pas forcément très très satisfait, oui, très agréable. Hein.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, c'est-à-dire que tu as des individus qui certes, oui, ils restent jeunes très longtemps, ils vieillissent moins, mais effectivement, faut voir que c'est cette caractéristique-là, elle est induite par la domestication ou l'autodomestication.
Oui, oui, voilà. Tu veux dire, c'est un sabre à double tranchant, c'est ce que tu veux dire.
Voilà, comme le fait aussi, bon, il y a aussi un autre point qui est marqué, c'est-à-dire que on avait les renards qui avaient leur période de reproduction qui était une période par an, c'est passé à deux périodes par an, et puis entre les deux, ça baisse dans tous les sens. Bon, je ne suis pas très porté sur la morale catholique, etc., etc., mais ça peut ressembler à ce qui peut se voir à droite à gauche ces temps-ci.
Vous savez, les négationnistes, le terme est à la mode, de la race, ceux qui nient que la génétique ne joue aucun rôle. Regardez, en 2-3 générations, le simple fait de changer de comportement vis-à-vis d'un mammifère, donc de le mettre dans un contexte social différent, son phénotype change. Son pelage va changer. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que la puissance de l'interaction entre le gène et son environnement social. Les mecs vont vous dire...
Il y a même des gueules différentes.
Ouais, carrément. Il y a carrément la forme du crâne qui change. Les mecs te disent aujourd'hui...
La forme du crâne, la forme du nez, quoi. C'est pareil pour nous, quoi. Les gens ont des gueules bizarres maintenant. Hein.
C'est ça. Alors, non. Nous sommes dans une guerre raciale et génétique totale. C'est total. Et c'est génétique. C'est racial. Et ça vous implique. Ça implique ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, c'est pas le voisin, c'est vous. Et être mis
au contact. Racial, une guerre phénotypique.
Mais totalement. Et le fait d'être mis au contact forcé avec des nègres. Ne va pas vous laisser génétiquement indifférent, ni vos descendants. Et vous imaginez ça? C'est-à-dire que c'est une réaction épidermique, dirais-je. Notre ADN va réagir au contact des nègres, va réagir au contact des bougnous, les arts. Et pas réagir dans le sens on les aime plus. Ça, c'est ce que disent les gauchistes. Hein. Non, hein. Votre génétique est beaucoup plus intelligente que votre conscience. Si jamais vous êtes encore dans la gang démocratique égalitaire en disant ouais, peut-être en comportement mieux, les bougnous sont moins agressifs, non, ils sont aussi dégueulasses, peu importe la façon dont vous comportez, votre génétique, elle change. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que votre génétique joue à 1000 ans à l'avance, je trouve ça fascinant, quoi. C'est-à-dire que votre génétique a un projet. Votre conscience, bon, à la limite. Mais votre génétique a un projet. Elle s'adapte. Et mise au contact d'un environnement différent, elle réagit. Et à mon avis, j'admets volontiers ne pas avoir de réponse définitive, mais exposé à la violence des bougnoules, il y a de très fortes chances pour que la génétique blanche devienne beaucoup plus agressive vis-à-vis des bougnoules, en fait. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse.
C'est ce que je crois.
Moi, c'est ce que je pense. Donc, en fait, on est dans la vague creuse. Moi, je pense qu'on est dans la vague creuse. On est au creux de la vague. C'est le pire moment. C'est le pire moment au niveau de la race blanche. C'est le pire du pire du pire du pire de tout ce qu'on a vécu. Dans toute l'histoire de la race blanche, en fait, on n'a jamais été aussi misérablement... obséquieux vis-à-vis de toutes ces races de merde, ça n'a jamais eu lieu, on les a toujours regardées avec mépris parce que c'est des races méprisables, et en fait tous ceux qui disent aux blancs « les gars, faut se ressaisir », se font persécuter alors qu'on dit simplement l'évidence. Mais la génétique va revenir à l'échelle de 2 ou 3 générations, et ça va être très 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 saignant.
Oui, oui, oui.
Je disais, Première Guerre mondiale, l'Europe a perdu 20 millions de personnes. Deuxième Guerre mondiale, on a perdu 60 millions de personnes environ. Hein,
ouais.
Mais... Les Juifs ont tendance à rajouter quelques millions par-ci, par-là.
Oui, c'est une tendance, voilà. Effectivement.
Et du coup, on peut quand même évoquer la possibilité que les personnes qui sont parties durant cette deux guerres mondiales, c'était un peu le meilleur de l'Europe.
Donc, moi, j'ai envie de dire, si tu veux, la Troisième Guerre mondiale, c'est 100 millions de morts en Europe, mais par contre, que des Métèques.
Ah ouais, pas que.
Mais...
Beaucoup.
Disons que, bon, y a des gens qui financent tous ces rases de boue à la sueur de leur front.
Qui en ont marre.
Ils en ont marre, mais si tu veux, quand les Afghans qui commencent à piquer des crises parce que le café n'a pas de lait dans les commissariats, tu vois, ça m'évoque quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, bon, les gens qui suent matin, midi et soir, 5 à 6 jours par semaine, pour nous regarder des métèques, bon, on les remplace, etc. Et des bougnoules qui hurlent partout, certes. Mais c'est le bougnoule et surtout le nègre, d'ailleurs, il faut le dire, étant une espèce invasive et pullulante, il va arriver un moment où le blanc, l'arien, ne pourra plus. Ne sera plus en capacité de nourrir convenablement l'espèce d'entité abstraite et gigantesque qu'est le Metteka, qu'est le Babouina, voilà, le Babouina.
et le Babouina.
Quand le Babouina réclamera plus de pitance et que le blanc ne pourra plus parvenir à faire plus, nous serons en face d'un moment de vérité. Et là effectivement, les choses commenceront.
L'histoire s'accélérera.
L'histoire commencera à se faire. Parce que là, on s'emmerde un peu.
Hein, on s'emmerde très sérieusement.
On se fait chier, on a des nègres là.
Ils baissent des blanches, ils rigolent, ils dorment en pleine rue.
Ouais, voilà.
Écoutez,
moi je veux du nègre qui... Mangez là. Il faut du nègre énervé, voilà, il faut du... Enfin.
C'est pour ça que tous les gens qui appellent... Pour régler le problème de l'immigration, tous les gens qui appellent à assimiler les métèques, ah non, moi je dis non, moi je les veux dans leur cité à la con, en train de dealer du shit, de faire des actes de délinquance.
Alors moi, ils font très bien, quoi. Plus le quatrième Reich déjà.
Comme tout le monde, je pense.
Enfin, oui. Tous ceux qui sont doués de raison, disons. Voilà. Sur ce, peut-être qu'en appelant au retour d'Adolf Hitler, on peut se séparer.
Moi, je vais allumer un cierge à la mémoire d'Adolf Hitler.
Ça, c'est une bonne initiative. Messieurs, chers auditeurs, allumer un cierge à la mémoire d'Adolf Hitler, cet homme, ce saint, a voulu nous épargner...
Qui n'a rien fait de mal.
Qui n'a rien fait de mal, qui a voulu nous épargner tout ce que nous subissons et qui nous est imposé par les Juifs. Cet homme prie pour nous au ciel et nous devons le lui rendre. Mais
voilà,
le Messie arrive, le Messie de la race blanche arrive.
Oui, chers amis, prions pour la grande chimpanzerie extériorisée, celle qui mettra les cartes sur la table.
À la semaine prochaine, les amis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.